Nous sommes mercredi 16 décembre 2020 et vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Et bonsoir.
Et bonsoir Zergy. Ah, Zergy.
Joli.
Magnifique, on n'avait pas vu venir. Et comme le veut la tradition, tous les ans, nous allons faire une petite émission bilan, nous allons revenir un petit peu sur les Game Awards, puisqu'on en a parlé il y a 2 semaines et qu'il y a eu peu de surprises. Hein. Donc on va passer assez rapidement dessus, on va parler de nos jeux de l'année, hein, parce qu'évidemment il y a des choses qui méritaient qu'on s'y attarde. Puis on va faire comme d'habitude, on va jouer à Madame Irma, on va faire... Petit bilan de l'année, quelques prédictions. Alors, j'ai réécouté vos prédictions 2020.
Oh là,
voilà. Gros bâtard. On fera ça tout à l'heure. On va commencer par les restes du monde, donc un petit peu d'actualité. Nous avons eu un Indies Direct.
Hier.
Surprise. Et il y aura un Sakurai Direct explique Sephiroth.
Demain. À 23h.
Et pendant 35 minutes, il va donc jouer avec lui-même.
What?
Ouais, mais il fait ça tout le temps. Ouais. Ah, mais
ah oui,
oh, putain, c'était dégueulasse. Oh. C'était dégueulasse.
Oh là là.
Bref, donc oui, Sephiroth dans Smash Bros. On va commencer par ça, comme ça, ça nous...
Ouais, la petite surprise de Game Awards.
Bon, est-ce que c'est vraiment une surprise? Enfin...
Bah, en fait, ouais, parce que personne, je pense, s'attendait à voir un deuxième personnage de FF. Vu à quel point Claude dans le jeu est implémenté un peu avec le minimum syndical, à savoir un stage de musique, et c'est tout.
Mais le perso lui-même...
Surtout un autre personnage de FF7.
Oui, non mais voilà. Mais je trouve que c'est bien qu'ils aient mis un méchant pour une fois, ça change d'avoir toujours le héros principal de la franchise en question. Et puis bah, pour le coup, FF7 aura peut-être un peu plus de représentation qu'un personnage d'un stage de musique, quoi.
Oui, c'est possible, ça m'étonnerait pas qu'ils rajoutent un stage, oui, peut-être un deuxième, peut-être quelques morceaux supplémentaires.
Le stage, c'est sûr, parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce, c'est l'endroit où se déroule le combat final de FF7. Je crois même qu'ils ont mis à jour un des Final Smash de Cloud. Enfin, on verra demain, mais l'attaque qu'il fait à la fin de la vidéo n'est pas son Final Smash habituel.
Il fait l'Omnislash level plus, là, c'est ça?
Bah, c'est celui de la version du film Final Fantasy VII Advent Children, et pas la version normale. Donc okay. Voilà, peut-être aussi une petite modif de Cloud au passage, on verra.
Bon, en tout cas, il y a ça, et donc demain, si à 23h vous êtes motivé pour regarder Sakurai...
Ce qui sera mon cas.
Voilà.
Dans son salon.
Tout à fait.
Avec ses 2 écrans.
Avec son canapé.
On va voir s'il a encore plus les joues creusées, par contre, ça c'est...
Oh putain, ça c'est... Bon. Bref, donc il y a eu un petit Nintendo, enfin Indies Direct, qui a annoncé pas mal de choses. Alors il y a eu beaucoup de choses annoncées, j'ai vraiment retenu que l'essentiel, histoire qu'on aille un peu vite, parce que finalement... La principale nouvelle, c'est Among Us.
Ouais, qui a été annoncé à la fin.
Bah, il y aura un costume pour Mii dans Smash Bros.
Ça me fout, je pense. Je serais pas surpris qu'il arrive demain.
Ouais, je serais pas surpris non plus, quoi.
Bah, c'est le jeu phénomène de l'année, enfin, en tout cas, cette fin d'année, donc c'est pas vraiment étonnant qu'il sorte sur console.
Non, c'est pas étonnant, surtout qu'il était disponible sur mobile, sur PC, via Steam et GOG et l'Epic Game Store, et voilà, et là, il sort sur Switch au même prix. Je serais pas très étonné de le voir tourner sur PS4. Et... Ah bon, un peu plus cher.
Il est à 4,20€, je crois. Ouais, c'est ça. Et
oui, parce que
bah...
les cartouches coûtent cher en démat.
Ouais. Bon, à 400 mégas, je trouve qu'à 4€, j'avais des points à passer, je l'ai pris. Ça se joue très bien, c'est juste les parties de chat qui sont bah, du coup un peu compliquées si tu joues à la manette. J'ai encore pas essayé au tactile. Mais voilà, ça se joue bien, c'est exactement le même jeu, c'est crossplay.
Ah, ça c'est bien. Ouais. C'est bien parce que ça permet. Enfin, c'était déjà un des gros bons points de la version mobile, PC, machin, c'est qu'effectivement tu pouvais y jouer sur à peu près n'importe quoi et ça marche assez bien à chaque fois.
Ah, et la petite surprise, il est complètement localisé en français et il n'y a pas moyen de décensurer le chat.
Oh. Ah, c'est bien la localisation ça.
Ça c'est bien ça. Non, ça fait plaisir.
Et il y a de... Alors après, je sais pas si c'était indiqué quelque part, mais est-ce que du coup c'est cross-play avec les versions mobile et PC?
Mobile et PC. Oui, oui,
c'est nice. Ça c'est très très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais peut-être tenter de le prendre sur Switch pour le tester demain soir.
Bah, si tu l'as pas déjà sur PC ou si tu n'as pas joué sur mobile, effectivement, c'est une bonne, je pense que c'est une bonne alternative.
Bah, j'ai la version PC.
Est-ce que c'est un jeu qu'on peut mettre à côté de Mario Party en tant que jeu qui brise des amitiés?
Oui.
Oui, clairement.
C'est comme si tu fais une partie de loup-garou avec des gens que tu penses très bien connaître et tu te rends compte que putain, en fait, lui, il mitonne depuis des années, quoi.
C'est des grosses putes, tous. C'est ça que tu te rends compte.
Ouais.
Non, mais ça, je trouve que ça marche bien. Alors après, sur de courtes durées, ce que je trouve intéressant dans Among Us, c'est que tu peux embarquer des gens qui ne jouent pas du tout aux jeux vidéo d'habitude et ça marche assez bien.
Ouais, c'est un jeu qui fonctionne à la chat, donc...
C'est ça. En fait, le jeu lui-même fait pas grand-chose, c'est vraiment juste un support pour le joueur, finalement. C'est ça qui est intéressant, comme le loup-garou, il y a quasiment rien. T'as le loup-garou, t'as dans une boîte de loup-garou, t'as quoi? T'as trois cartes, tu pourrais très bien. Ah, t'es souhait. Tu pourrais très bien faire ça sur un bout de papier. Hein. D'ailleurs, je connais beaucoup de gens qui le font comme ça.
C'est pas étonnant.
Voilà, on a eu Spelunky 1 et 2.
Ils sortiront l'été. Alors, autant pour le 2 qui est récent, ça m'étonne pas, autant pour le 1.
Alors, je sais pas si c'est un pack Spelunky 1 plus 2, c'est-à-dire genre.
C'est pas précisé.
Parce que si c'est le cas, ça pourrait se justifier.
Oui. Bah, du coup, Spelunky, quand même un roguelike, vraiment un roguelike, hein. Il n'y a pas d'amélioration possible entre les parties d'action plateforme. Le 1 est très populaire, hein. Je pense que. Apparemment, le 2 marche très bien aussi, mais.
J'ai jamais joué, mais tous les retours que j'ai eu de gens qui l'ont testé m'ont dit c'est franchement très cool et addictif.
Ouais, c'est velu comme difficulté aussi, hein, parce que les pièges, il y en a partout, et il suffit que tu décides de foncer un petit peu, généralement, tu te prends un truc.
Oui,
pour le peu que j'en ai testé.
Relativement punitif. Ensuite, moi j'ai noté une ancienne exclue Apple Arcade. Alors, je sais pas si vous vous rappelez Apple Arcade, c'était Apple qui se disait tiens, on pourrait nous aussi faire Stadia, mais en Apple.
Apple qui fait des jeux vidéo, ça peut pas marcher.
Alors en soi, l'Apple Arcade, c'était pas déconnant parce que c'était faire des jeux justement un peu premium sur mobile, mais au lieu de payer le jeu, tu payes un abonnement. Donc un peu comme le Game Pass.
C'était pas complètement déconnant, le problème c'est que je suis pas certain que ça ait beaucoup marché.
Bah apparemment passer les premiers jeux où ils ont un peu investi pour avoir vraiment des bons jeux type Grindstone ou... comment ça s'appelait cette espèce de jeu QTE avec de la musique pop bien flashy là?
Sayonara Wild Hearts.
Sayonara Wild Hearts, voilà. Ça par exemple... Ça fait partie des premiers qu'ils ont fait et qui avaient plutôt bien fonctionné. Et j'ai cru comprendre que derrière, ça s'était un peu cassé la gueule. Enfin, ça n'avait pas trop suivi et du coup, bah, les gens ont arrêté leurs abonnements, en fait.
Oui, tout bêtement. Donc voilà, donc là, effectivement, je pense que les développeurs sortent un peu du truc pour essayer de proposer autre chose. De ce que j'ai compris, Grindstone, c'est un des meilleurs jeux de... Enfin, c'est un des meilleurs puzzle games qu'il y avait sur l'Apple Arcade. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ça arrive ailleurs. Et on est content que ça arrive sur Switch. On m'a soufflé Dicey Dungeon.
Alors, qui n'a pas été annoncé pendant le direct à la surprise de tout le monde, mais qui est sorti aujourd'hui.
Bam!
Shadow Dropé, comme on dit. Un très bon roguelike à base de dés. Qui est sorti sur PC l'année dernière. Alors moi, j'avais regardé un let's play. Je trouve le jeu assez intéressant. En gros, l'idée, c'est qu'on va jouer des dés qui vont devoir passer des épreuves. En affrontant des monstres, donc c'est que des combats un peu façon RPG à l'ancienne. Et le truc, c'est que tous les coups, en fait, on va être à chaque tour, notre personnage va avoir des dés, va jeter des dés. Donc des dés classiques à 6 faces, hein. On n'est pas sur des dés de rôliste à 10 ou 20 faces. Et avec ces dés, il va falloir les utiliser pour pouvoir attaquer avec son équipement. Donc il y a à la fois une espèce de stratégie de construction d'équipement, parce qu'il faut quand même avoir des trucs qui peuvent s'utiliser à chaque tour. Et un petit peu de hasard avec le tirage des dés, sachant que en fonction du personnage, il y a des mécaniques assez différentes qui se font. Le guerrier, c'est assez basique, et puis en fait, t'as des personnages comme le robot où tu tires les numéros au hasard. Enfin, tu tires toi-même les numéros, et si tu dépasses trop un certain quota, ça explose et tu peux plus jouer. Enfin, des trucs comme ça, c'est assez ma boule.
Ça a l'air sympathique.
C'est complet, et t'as 6 personnages, ça se renouvelle bien sur les 6. au niveau gameplay. Donc ouais, je recommande. Je pense que ce sera un bon jeu de vacances si vous êtes chez vos parents ou vos grands-parents.
On a un Super Meat Boy Forever. Alors je sais pas si c'est la compile Super Meat Boy 1 plus 2 ou si c'est autre chose.
C'est ce que j'avais demandé, ouais. Est-ce que c'est une nouvelle extension ou un menu best-of ou...
Pour moi, c'était un menu best-of.
Ce que j'ai compris, c'est que c'est un nouveau jeu, mais au lieu d'avoir des niveaux finis comme l'original, c'est comme les... Comment ça s'appelle déjà les jeux mobiles où les mecs font que courir et puis
Infinite Runner.
C'est un Infinite Runner apparemment. D'où le Forever à la fin en fait.
D'accord, j'avais pas compris ça comme ça. Okay.
Après, c'est le gameplay de Meat Boy, donc moi j'aime pas. Mais je pense que ça peut faire un très bon Infinite Runner. Hein.
C'est pas impossible du tout. Et le dernier, puisqu'il m'a été soufflé par Mecton, Finding Paradise, qui serait la suite de To The Moon.
Ouais, alors la suite avec des guillemets, c'est la suite, c'est-à-dire c'est le même mec Inspired qui l'a développé. C'est ça, non, c'est le même mec qui l'a développé. Je sais plus comment il s'appelle, attends que je regarde. Kangao, voilà, donc Freebird Games. T'as l'impression que c'est un gros studio et en fait le mec est tout seul. Donc voilà, c'est encore un jeu fait sous RPG Maker, c'est une suite spirituelle dans le sens où visuellement c'est la même chose et le scénario est proche dans les thèmes qu'il aborde. Donc To The Moon, on rappelle, ça parlait, je spoil légèrement, mais ça parle très rapidement du handicap en fait.
Oui, voilà.
Voilà. Donc bah, franchement, je te conseille, c'est un jeu à histoire, mais très belle histoire.
Et le Shitty Awards de la semaine revient à Nintendo, qui commence à balancer des copyright claims sur tous les gens qui ripent des musiques de ces jeux, notamment sur YouTube. Et donc il y a plein de gens...
Ils le font depuis l'an dernier.
C'est ça, mais là apparemment ils ont accéléré considérablement le mouvement.
Nintendo, toi c'est No Fun Allowed. Toi c'est Angela Merkel en fait. C'est quoi, oh quoi, je vois quelqu'un qui s'amuse à se faire button.
Mon dieu, oh là là, j'ai pas mis le 18+. On n'a pas le droit d'exprimer ce genre d'opinion. Voilà, donc c'est un peu un comportement de merde. Alors après, je peux comprendre aussi, c'est pas la musique des gens, mais généralement, les vidéos ne sont pas mises for profit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le truc pour récupérer du pognon sur la vidéo, donc je trouve ça un peu triste de pas laisser les gens simplement écouter ce qu'ils ont envie d'écouter. Surtout que les bandes originales étaient disponibles sur des plateformes légales, je n'aurais rien à dire, là c'est pas le cas.
Je crois que Nintendo a commencé à mettre les siennes sur Spotify.
Ah bon ? Ça serait pas mal.
Mais en même temps, enfin, je veux dire, voilà, effectivement, comme dit Vortel, la musique de jeux vidéo, c'est pas souvent vendu à part, quoi.
C'est ça. Non mais voilà, moi si effectivement c'est vendu à part et que Nintendo touche rien dessus, je comprends que ça les fasse chier. Mais dans l'absolu, il pourrait aussi arrêter de nous casser les couilles.
Il ne doit pas avoir grand monde qu'on achète, quand même.
Sachant que s'il y a des pubs qui tombent sur les vidéos, a priori, elles leur reviennent, vu que ça leur appartient, c'est et ça. Que les deals de YouTube font que ça fonctionne comme ça.
Donc oui, il n'y a pas... Enfin bon,
ouais, ils doivent manquer d'argent, en fait.
L'année 2020 était dure.
Ouais, ça doit être ça.
Ah mon dieu, vous êtes horrible. Bon, bref, on va se faire une première petite pause musicale et sur une suggestion de Monsieur Antix qui nous a dit, mais en fait, la bande originale de Paper Mario, elle est vachement bien. Et ben on va écouter un peu de bande originale de Paper Mario parce qu'elle est vachement bien, et effectivement, c'est le cas. Donc on va écouter Exploring the Great Sea, qui est la musique qu'en fait, quand on explore la très grande mer...
La grand-mère, mais c'est sale.
Non, ce n'est pas sale.
Ton corps change.
Celle où on se fait un petit Wind Waker pendant 2 heures et demie.
Le Wind Waker qui est meilleur que Wind Waker.
Stop.
je crois que c'est un des meilleurs passages du jeu. Hein. C'est ce ruban-là. Moi, c'est un de mes préférés.
Le parc. Quoi.
Le parc.
Ouais, le parc est drôle. Mais des meilleurs. Il y en a d'autres qui sont bien aussi.
Non, mais le parc est délirant. Le théâtre est délirant aussi.
Ouais, c'est parti du parc.
Voilà, mais c'est le boss du parc. Bref. Donc, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes. À tout de suite.
la Super Nintendo, les sprites peuvent avoir jusqu'à 128 pixels de côté. C'est énorme!
C'est bien monstrueux et j'adore ça.
Et nous voilà de retour.
Tour!
Donc on va vite fait parler un petit peu du retour des Game Awards.
Tour!
Stop. Hades qui a gagné deux prix.
Mais pas celui qu'il fallait gagner.
Bah, meilleur jeu indé, meilleur jeu d'action. Tu veux qu'il gagne quoi?
Il manquait Coty.
Oh, ça va, exagère pas.
Non, j'exagère pas du tout.
Non, bah. C'est The Last of Us Part 2 qui a à peu près raflé tout le reste, comme c'était plus ou moins prévu. À part la meilleure DA, c'est Ghost of Tsushima. Ce qui me paraît plutôt justifié, c'est vrai que c'était joli.
Ouais, Ghost of Tsushima qui avait aussi le choix des joueurs.
Oh, intéressant.
Alors, c'est le vrai Gauthier en fait.
Mais de ce que j'ai compris, ça, il l'a gagné parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé Last of Us 2 et qui ne voulaient pas le voir gagner pour des raisons de contenu politique qui ont poussé Ghost of Tsushima.
C'est quoi? C'est Gamergate, c'est ça?
Oui, c'est sûrement ça. Hein,
ouais, c'est moche.
Parce qu'il y a une femme héroïne et puis qu'elle est lesbienne et puis voilà, tu vois.
Oui.
Mais en même temps, le fait que Last of Us 2 remporte autant de prix, est-ce que ça serait... dire en filigrane que les Game Awards seraient autant truqués que les Oscars?
Pff, je sais pas, il y a, je pense qu'il y a des trucs qui sont mérités.
Bah, je pense que globalement ça reste quand même une réussite en termes de jeux vidéo et ça a quand même mis la barre très haut. Ah, il y a un truc sur lequel j'étais d'accord, ceci dit, c'est que gagner meilleure direction lorsqu'une équipe a crunché comme des bâtards pour terminer le jeu, je sais pas si c'est mérité.
Moi, il y a un autre truc, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu comme la cérémonie des Oscars. En fait, ça récompense pas forcément le meilleur film. C'est l'industrie du cinéma qui récompense l'industrie du cinéma. Donc, c'est
voilà,
ce qu'ils considèrent comme étant le meilleur. Ça veut pas dire que c'est ce que toi tu aurais mis comme étant le meilleur.
Bah, c'est pareil pour les Game Awards. Hein. C'est l'industrie du jeu vidéo qui
c'est
récompense.
Ça.
Hein.
Les mecs se sucent la bite.
Exactement.
Ah, c'est ça.
Ouais, et du coup, effectivement, ils se récompensent eux-mêmes selon des critères qu'ils ont posés eux, qui sont pas forcément les critères des joueurs. Et du coup, ça fausse un petit peu le truc, parce que finalement, c'est pas le jeu de l'année selon les joueurs, c'est en réalité le jeu de l'année selon l'industrie, c'est-à-dire celui qui représente un parangon de création
encore,
plutôt qu'un parangon de gameplay.
C'est selon l'industrie américaine.
Oui, parce qu'après, c'est discutable. Bon, un seul prix pour un jeu Nintendo, le jeu familial, oh là là.
Quelle surprise!
Alors, quand est-ce que Nintendo n'a pas gagné le jeu familial, en fait? Faudrait vraiment arriver à regarder si c'est déjà arrivé.
L'année où ils ont sorti que des jeux 18+, peut-être.
Ah, lol.
Which never happened.
Voilà, c'est un peu ça. Donc, de toute façon, voilà, ils ont gagné, comme c'était plus ou moins prévu.
Animal Crossing, qui gagne rien cette année, ça aurait été très étrange, vu le phénomène que c'était, quoi.
Ça aurait été dommage qu'il n'en gagne au point.
C'est ça. Pas de clochette
pour... Ça aurait été curieux qu'il n'en gagne au point.
Bah, de toute façon, comme je disais la dernière fois, parce que j'ai écouté l'émission tout à l'heure, quand t'es nominé dans jeu de l'année, t'es sûr d'avoir une récompense si c'est pas jeu de l'année. Hein.
Oui, je sais qu'il dit le prix du meilleur jeu de Nintendo revient à Nintendo.
C'est ça,
c'est à peu près ça. Vous déconnez, mais. Attends, ouais, c'est ça. 2019, les nommés dans la catégorie meilleur jeu pour la famille: Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Smash Bros Ultimate et Yoshi Crafted World.
Non mais... C'est littéralement la catégorie Nintendo parce que ça reste ceux qui font les jeux les plus grands publics en termes de... En tout cas parmi les gros éditeurs.
Et justement, Mecton, tu l'as choisi comme un de tes jeux de l'année, en tout cas, puisqu'on a chacun choisi un ou deux ou trois jeux à compléter. Alors, en l'occurrence, il y en a qui en ont fait moins que d'autres. Voilà, donc je profite de cette transition toute faite pour dire Animal Crossing New Horizons, du coup, jeu du confinement.
Jeu de l'année, jeu symbole, qui est sorti pile quand il fallait pour aider passer tout ça, quoi.
C'est un personnage mongolin dedans.
Stop.
Bonne question.
Peut-être dans l'update hiver 2021.
Il y a une chauve-souris.
C'est pas faux.
C'est vrai que dans un patch, ils l'ont peut-être tège, en fait.
Non, je pense pas.
Je pense qu'il a jamais été là.
Après, je crois que t'as toujours un termitier, mais c'est pas vraiment la même chose.
C'est pas tout à fait
un
pareil.
Un fourmilier, pardon.
Donc voilà. Oui, Animal Crossing, ça a aidé pas mal de gens à...
Bah,
c'est le jeu qui a quand même arrivé au bon moment.
Il y a une grosse effervescence autour du jeu à sa sortie.
Avant, il était grave attendu. À chaque direct, les gens gueulaient parce que ça parlait pas d'Animal Crossing.
Animal Crossing, ça reste une franchise qui est vraiment populaire, mais d'un point de vue grand public, en fait. Les fans hardcore de Nintendo l'attendent pas vraiment. ce que je, du ressenti que j'en ai, mais...
Alors, je sais que des gens l'attendent parce qu'ils savent que ça va faire vendre des consoles par palette et que du coup, ça attirera d'autres éditeurs dessus.
Les actionnaires, du coup.
Ouais.
Ah, mais Animal Crossing, c'est, ça fait partie des séries Nintendo qui vendent très très bien depuis, depuis la DS. Parce que Animal Crossing DS, c'est quand même très bien vendu. Mm. 3DS aussi, alors oui, je crois un peu moins, mais...
C'était la version GameCube qui a vraiment démarré le phénomène, mais comme la GameCube n'était pas forcément une console extrêmement populaire, il y en a eu relativement peu.
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment la version New Leaf... Wild World.
Oui.
Sur DS, qui a vraiment démarré le truc. Hein.
Bah, c'est la première qui a prouvé que le monde était un cylindre.
Stop. Arrêtez avec ça, vous me collez les angoisses.
Mais du coup, un petit peu le gros succès de l'année pour Nintendo, et ils se sont permis de se dire, pour Noël, on va sortir 2-3 jeux vite fait, une pauvre compile Mario, et puis ça fera le taf. Hein, Animal Crossing, il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires en même pas un an.
Fuck that.
Parce que rappelons ça quand même, le jeu le plus vendu de la Switch, c'est Mario Kart 8 Deluxe à 26 millions, mais Animal Crossing, il est à 23 millions.
Putain, ça va être... Putain, oh là là.
C'est un des jeux les plus vendus de tous les temps. C'est un des jeux les plus vendus de tous les temps au Japon.
Comment mettre une carotte à l'intégralité de l'industrie, tu vois.
Ah bah c'est ça, le jeu se vend encore dans les top 5 hebdomadaires.
En France, il y est encore.
En France, au Japon, probablement mensuel aux États-Unis. Je pense que c'est le jeu le plus vendu de cette année. En termes de volume.
C'est la folie.
Et puis, c'est pas fini. Comme on disait en off tout à l'heure, à chaque fois que quelqu'un se dit c'est bon, ça va se calmer, les chiffres du mois tombent et ça continue.
Alors, juste pour corriger ce que j'ai dit, Mario Kart 8 est à 29 millions. Animal Crossing est à 26 millions. Mais c'est au 30 septembre.
Oh, ouais, putain. Okay.
Donc je serais vraiment pas surpris que les deux dépassent les 30 millions à Noël.
Ok, ok.
Bah, surtout que même moi qui ne suis pas particulièrement un fan d'Animal Crossing, ma femme avait adoré la version GameCube. Mais quand elle a vu qu'on pouvait pas récupérer sa ville sur la version Wii, en fait, elle a laissé tomber très vite. Et en fait, ma fille me l'a réclamé pour Noël. Donc bah, moi, j'étais obligé d'en acheter une copie. Quoi.
C'est quoi ? C'est la pub avec Denis Brognard qui l'a fait craquer ?
Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'elle a des copines à l'école qui jouent.
Ok. Non, ce que j'allais dire, niveau communication, ils ont fait quelque chose. Donc t'as cette pub avec... merde, comment il s'appelle ? La team qui fait Koh-Lanta, quoi.
Oui.
Ils en ont fait une avec Ring Fit aussi, qui est un chouïa moins drôle, mais qui est très bien.
Mais ça reste très second degré, je trouve.
Ok. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque changement de saison, en fait, ils refont une petite vidéo promo. Ils mettent à jour la pub. Genre la pub quand le jeu est sorti.
DLC de la pub.
Et c'est ça, la pub quand le jeu est sorti, c'était pas la même que la pub qui passait cet été, que cet automne, et maintenant cet hiver. Quoi.
La question, c'est vont-ils recommencer au printemps prochain ?
C'est possible, hein.
C'est possible.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, en fait. C'est ça qui est flippant.
Bah, s'ils voient que leur stratégie de faire des trucs régulièrement, ça réaugmente les ventes à chaque fois qu'il y a des nouvelles campagnes, t'en refais une petite au printemps avec une petite mise à jour supplémentaire. Parce que si le jeu marche bien, ils peuvent aussi décider de mettre des trucs en plus à partir du printemps pour les 1 an du jeu. Hein.
Ouais, c'est clair.
Ouais, c'est possible. Mais tu vois, justement, pour les joueurs réguliers comme ça qui le picorent, alors je t'avoue qu'au début j'y allais tous les jours et là c'est plus deux fois par semaine maintenant. À chaque patch, ils te rajoutent un petit truc qui manquait. Genre des commerces qui manquaient, des vendeurs qui manquaient par rapport aux versions d'avant. Boum, ils ont été rajoutés. Le musée, ils ont rajouté la galerie d'art.
T'as un masque qui vend du hashish ?
Ça viendra. Mais le jour où ils rajoutent le café, je vais être content. De la collection de gyroïdes, j'adorais ça.
Bref. Donc oui, Animal Crossing New Horizons, c'est de toute façon un des gros succès de l'année. Zergy va nous parler un petit peu de Trials of Mana, alors même si c'est pas un jeu qui est sorti en 2020 de mémoire.
Si. Enfin, la version remake est sortie en 2020.
La version remake, c'est ça. Et donc toi, c'est le jeu sur lequel, alors tu nous avais déjà dit que t'avais gogolisé dessus un bon moment, largement un bon moment, quoi.
Ça a été mon jeu du confinement. C'est un des rares jeux Switch que j'ai fini et j'ai même recommencé une deuxième partie, donc oui, j'ai bien aimé. Puis ça se prend, tu peux laisser tomber quelques semaines et le reprendre facilement.
Oui, t'as pas besoin d'être totalement accroché dessus, ça se dépose bien, ça se reprend bien.
Contrairement à Fire Emblem, où Fire Emblem, moi, si je lâche plus de deux semaines, après je sais plus comment on joue, quoi, donc...
Oui, ou tu sais plus quel personnage tu joues. Ou tu sais plus où on en est de l'histoire.
C'est qui les gentils, c'est qui les méchants.
C'est un peu ça.
Les méchants, c'est les rouges.
Je suis en train de faire Fire Emblem Sacred Stone sur GBA. parce que ben, je me suis dit, tiens, on va essayer de le finir. Et il y a un moment, il y a un twist que j'ai pas compris. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y avait un truc que j'avais fait le tout début, genre les 5 ou 6 premiers chapitres, il y a 6 mois. Et en fait, j'avais complètement oublié ce qui se passait. Donc, je comprends le principe. Hein. Si tu dis Trails of Mana, en fait, oui, il n'y a pas de gros twist, il n'y a pas de machin. Finalement, ça se suit et t'as pas forcément besoin de bourrer. Je comprends aussi d'avoir la capacité d'avoir des jeux comme ça que tu peux juste prendre, jouer avec 2 heures, les reposer, reprendre la semaine suivante sans avoir à te retaper un précédent lit dans mon jeu. C'est quand même relativement plaisant.
Oh, ça, c'est un truc que j'avais adoré dans Dragon Quest, d'ailleurs.
Oui. Précédent lit.
Il y avait aussi ça dans le remake GBA de Pokémon Bleu et Rouge.
Et des précédemment, sérieux ?
Il y avait des précédemment quand tu lançais ta partie. Ça durait 2 secondes, mais il disait, voilà, t'as fait ça. Faut que t'ailles là, okay. Maintenant. Allez, salut.
Mais c'est bien, au moins tu restes pas 2 heures à tourner en rond comme un con, à te demander où faut aller. Quoi.
Et Dragon Quest, effectivement, le faisait aussi. C'était plutôt chouette, ça, d'ailleurs.
Ouais, c'était très très chouette. Ouais.
Surtout Dragon Quest.
Bref, donc Monsieur Antix avait déjà parlé d'Hadès. Est-ce que tu veux en reglisser un petit mot, histoire de...
Bah écoutez, jusqu'à présent, les roguelites, j'en ai joué une 20aine d'heures, puis après, il me tombait des mains, là, j'en suis à 50 heures. J'ai déjà terminé le jeu. Je continue d'y jouer.
Il ne faut pas le mettre dans les mains de Méduse. Je pense que c'est très dangereux.
Ah oui, non, mais pour moi, c'est... Alors, j'ai fait Dead Cells en septembre, que j'ai bien aimé, mais je trouve que Hades est vraiment un cran au-dessus en termes de plaisir de jeu et compagnie. J'y joue encore, parce qu'il y a encore des choses à débloquer. Bon, alors, c'est plus cosmétique actuellement. Il y a plein de défis, il y a des défis personnalisables quand tu as fini le jeu, ils te filent tout un set de difficultés réglables avec par exemple des ennemis avec plus de barres de vie, des boss qui ont des nouvelles attaques en fait ça, mine de rien, ça continue à alimenter ton expérience de jeu et si tu as accroché au gameplay comme c'est mon cas, tu peux vraiment continuer à jouer et découvrir des nouvelles combinaisons de pouvoirs qui sont complètement pétées. Enfin bon, sinon j'ai relancé le jeu alors que je m'étais remis à Breath of the Wild qui m'a pas mal accroché aussi. Hein. Mais vraiment, jeu de l'année, Death. Totalement.
Gothi.
Moi, il aurait mérité d'être le Gothi. En tout cas, pour un jeu indé, c'est vraiment le très très haut du panier. Hein.
Voilà, je vais enchaîner avec Paper Mario d'Yori Makami King qui est mon jeu de l'année.
Qui était une bonne surprise de mon côté.
Qui était une très bonne surprise. Alors effectivement, le système de combat est un peu merdique pour les ennemis standards, faut quand même le dire.
Il est répétitif.
Alors après,
il est pas merdique, il est lassant.
C'est ça, tu t'ennuies assez vite, même si au bout d'un moment, ils finissent par te faire des mélanges qui fait que t'es obligé quand même de te prendre la tête pour arriver à tout faire en 2 ou 3 mouvements pour arriver à aligner correctement les ennemis. C'est pas le grand taux de placement, contrairement à... à beaucoup d'autres. Là, non, il y a un peu plus de diversité puisque t'as plein d'ennemis. Quand t'arrives à la source machin truc dans les nuages, là, tu vois que t'as plein d'ennemis un peu classiques. Il se passe, et t'as plein de rebondissements. C'est bourré d'humour. C'est extrêmement drôle. Et moi, en fait, ce qui m'a motivé à finir le jeu, c'est que ma fille a commencé à s'y mettre et qu'en fait, elle avait quand même besoin d'un petit coup de main de temps en temps. Donc, genre les ciseaux. Ça lui a posé beaucoup de problèmes comme boss.
Oui, bah il était surprenant. Il y avait un petit pic de difficulté à ce moment-là.
C'est ça. Et t'avais 2-3 autres trucs, genre la graffeuse aussi était un peu raide.
La graffeuse, elle était un peu. Le ciseau, si tu gères bien ton timing, tu peux le battre sans te faire toucher. Mais
putain, les boss, c'est le rayon papeterie en fait.
C'est ça la blague.
T'as du scotch, t'as des élastiques, t'as des ciseaux, t'as une agrafeuse.
La agrafeuse, c'est celui du château de mémoire.
Oui, c'est ça.
Alors, moi, le Cerbère. J'ai jamais joué à un Mario Paper, est-ce que ça peut être une bonne introduction?
Oui.
Alors ça dépend si tu cherches... Alors c'est le problème c'est que Paper Mario, on est passé d'un RPG sur N64 et sur GameCube. La porte millénaire c'était clairement très orienté RPG à quelque chose qui est beaucoup plus un jeu d'aventure avec des éléments de RPG.
Ouais, il y a des combats au tour par tour et c'est de garder la tradition quoi.
Mais voilà, donc faut beaucoup plus le voir comme un jeu d'aventure. Maintenant si tu aimes les jeux d'aventure, donc faut savoir tu vas te faire chier pendant les combats. Sauf pour les boss, où là le système de combat redevient hyper intéressant.
Et puis les boss sont assez intenses, je trouve.
Intense, pas évident. C'est souvent du trial and error, mine de rien. C'est-à-dire que tu prends souvent des claques avant de comprendre comment ce qu'il faut faire.
Bah, avant qu'ils te lâchent les indices, en fait.
Ouais, mais même pas. Hein.
Même pas. Tu peux les trouver dès le début, les indices dans les enveloppes et tout. Tu peux. Mais, tu vois, il y a certains boss. Je voudrais pas divulgâcher le truc, mais il y a un certain boss vers la fin du jeu où en fait tu te rends compte que tout ce que t'avais appris jusqu'à présent, c'est-à-dire finalement faut aligner les cercles pour te rapprocher pour lui coller une beigne. En fait, il faut pas faire ça.
Ah oui,
okay. Je crois voir lequel c'est. Mm.
Et en fait, il faut rester le plus à distance possible. Et c'est pas du tout naturel, parce que c'est ce qu'on t'a montré depuis le début. Et donc tu prends 2-3 branlées avant de te rendre compte que c'est pas ça qu'il faut faire.
Non, et puis en plus, les boss sont intéressants, parce que... normalement, l'arène de Paper Mario, c'est une arène circulaire où tu fais normalement Mario au centre, mais dans les boss, c'est l'inverse. T'es sur les côtés du cercle et tu dois aller au centre pour taper le boss.
C'est ça.
Et du coup, ta position par rapport au boss va aussi influencer l'endroit où tu vas taper. Et il y a certains boss où c'est vraiment prévu comme ça.
Exactement.
Si tu les tapes à l'arrière ou à l'avant, ça n'aura pas le même effet.
Donc, moi, je dirais, voilà, est-ce que Paper Mario The Origami King est un bon Paper Mario? C'est un bon jeu d'aventure. Très drôle. Vraiment bourré de sens de l'humour avec
faire au top.
C'est ça, des boss super intéressants. Par contre, des combats normaux qui sont un peu moins.
Ouais. Sur les trois derniers qu'ils ont sortis, c'est clairement le meilleur.
C'est-à-dire
oui,
que.
Mais oui. Mais je reviens sur le. Est-ce que c'est un bon Paper Mario? Pour moi, c'est compliqué à dire vu que t'as pas un seul Paper Mario qui ressemble au précédent.
En fait, si tu prends les 6 Paper Mario sortis actuellement, le style actuel de Paper Mario est le style qui est le plus nombreux. Donc,
C'est-à-dire que t'as les deux premiers qui sont des RPG.
Le troisième, c'est un RPG plateforme. Qui est presque plus une parodie d'ailleurs.
Sticker Star
et Color Splash.
Et Color Splash.
Ils se ressemblent un peu. Okay.
Ils se ressemblent un peu et qui sont plutôt, effectivement, plutôt du jeu d'aventure avec beaucoup d'éléments de RPG, mais où tu sens que les mecs, ça les fait chier de faire du RPG.
C'est ça, ils ont envie de faire autre chose.
Et en fait, là, je pense qu'ils sont enfin un petit peu libérés du côté RPG en se disant finalement, on s'en bat les couilles. Et je trouve que ça marche très bien. Et encore une fois, le truc est extrêmement drôle. C'est la blague avec la bobombe est. Enfin, c'est juste gigantesque.
c'est vraiment c'est du bon humour. Alors, un peu référencé, mais il y a toujours vraiment des bons trucs, des situations vraiment bizarres. Il y a vraiment pour tous les goûts.
Il y a du méta aussi.
Il y a beaucoup de méta.
Il y a PNJ qui te sort, on va faire un film sur tes aventures et personne ne va aimer. J'ai trouvé ça tellement drôle.
Puis il y en a plein des comme ça, je veux dire. Ce serait vraiment trop divulgaché, mais il y a tellement de traits d'humour complètement absurdes. C'est vraiment très drôle. Moi, plusieurs fois, je me suis bien marré. J'ai déjà entendu la gamine se marrer, mais se marrer comme une baleine parce que.
Ah, c'est cool ça. On va
quand même se dire qu'il y a tout un arc scénaristique. C'est quoi la vie d'une bobombe et le but final de la vie d'une bobombe qui se finit par probablement une des scènes les plus tristes de l'histoire de Nintendo. Hein.
Ah non, mais c'est un truc de mal. Mais attends, la gamine, elle pleurait. Hein.
Tu m'étonnes.
Oh. Mais ouais. Mais en fait, ce qui m'a motivé à reprendre le jeu et à le finir, c'est effectivement qu'elle avait besoin d'aide. Et donc, en fait, je faisais le jeu un peu avant elle pour être capable de l'aider sur les boss, pour lui montrer tout de suite la bonne stratégie pour qu'elle ne soit pas frustrée. Et donc, elle l'a fini une première fois et en fait, elle est en train de faire une deuxième run. Donc, elle kiffe le jeu, elle avait envie de recommencer. Donc, voilà. Oui, voilà, mais je pense que.
AGDQ en 2022. Attends,
elle essaye de finir les boss le plus vite possible, ceci n'est pas une blague.
Mais en plus, les mecs ont compris que leur boss fonctionnait bien parce que t'as un mode speedrun des boss dans l'arène de combat de la ville principale.
Sans déconner.
Si.
Moi, je l'ai pas trouvé, sans déconner.
Tu vas dans l'espèce de dojo, tu vas en bas et en fait, en haut à gauche, il y a une espèce de machine où tu peux refaire tous les boss du jeu.
Putain.
En mode speedrun.
C'est cool.
Chronométré et compagnie.
Putain, mais attends, il y a peut-être un truc à faire, hein. Ok, non mais d'accord. Monsieur Mecton voulait nous parler de Super Mario 3D All-Stars, mais je croyais que c'était une compilation au rabais.
C'est mon GOTY parce que Mario Galaxy, ça restera pour moi mon jeu préféré.
Je comprends.
Parce que le 2 est pas dessus.
Alors, j'ai un peu joué à Mario Galaxy et je sais pas, la maniabilité, j'ai un peu du mal.
Oui. D'accord, mais alors peut-être que mon jugement est biaisé par le fait que au pointeur Wiimote c'était
mais c'est la
naturel.
Première fois que je joue. Hein,
mais voilà, peut-être que si tu chopes directement le gameplay au pointeur, tu joues à la manette pro ou pas?
Ouais.
Ok.
Alors ça c'est peut-être un des rares jeux où tu aurais peut-être intérêt à jouer avec façon Wiimote Nunchuk en fait, avec deux Joy-Con, un dans chaque main.
Pour découvrir, ouais. Mmh. Sachant que le gameplay au pointeur, ce qu'ils ont fait avec le gyro, ça marche. Il y a pas.
Ça marche, mais ça reste. Enfin, je trouve que ça reste moins confortable.
Moins naturel, peut-être.
C'est ça. Mais Mario Galaxy, ça a aussi été un de mes jeux préférés de tous les temps. Je veux dire, il est le... T'as une idée géniale par niveau.
Par niveau.
Et c'est pas une blague.
Ça.
Et des niveaux, il y en a.
Voire même certains où tu as plus d'idées dans un seul niveau que dans un jeu complet de la concurrence.
Par exemple, Gusty Garden Palace.
Ah, la musique
cette fameuse musique extraordinaire où tu as effectivement plus d'idées de gameplay dans ce jeu-là que dans l'intégralité de la série Crash Bandicoot.
Oui.
Voilà, tiens, oui, oui. Prends ça, Crash
le
Bandicoot.
Le tacle en dessous de la ceinture, là.
Ça. Oui.
Ouais.
Non, au-dessus de la ceinture. Si c'est un tacle.
Ah, c'est vrai que Mario Galaxy, c'est probablement un des meilleurs jeux Nintendo.
Et l'ambiance Petit Prince, elle est géniale, quoi.
Bah, les histoires machin, enfin t'as là aussi t'as un peu d'émotion mine de rien.
Bah l'histoire d'Harmonie est super triste en fait.
C'est ça. Et je trouve que simplement le jeu que tu peux finir un peu finalement au ras des pâquerettes, une fois que t'as réuni suffisamment d'étoiles machin, bah tu vas aller tataner Bowser dans un des combats de Bowser les plus originaux de la série d'ailleurs.
Un des plus faciles aussi.
Oh, oui mais c'est rigolo.
Il est pas très dur. Ouais.
Quoi qu'il y avait celui d'Odyssée.
Oui mais c'est rigolo.
Ouais, il y avait la musique qui était cool.
Ce n'est pas chier, c'est rigolo. Ah oui, la musique est extraordinaire dans tout ce jeu, d'ailleurs. Mais et derrière, tu avais les fameuses comètes qui passaient de temps en temps sur un niveau.
Farceuses.
Alors, les meilleures, c'était les comètes violettes avec les faux Mario. Hein. Qu'est-ce que c'était bien, ça.
Mange tes morts. La comète,
ah, oui, oui.
La comète violette sur le niveau où t'as les plaques qui se retournent, elle est...
Elle est extraordinaire.
Elle est horrible.
Ah, mais je crois que c'est celle sur laquelle j'ai dû déclaquer genre 75 vies, un truc comme ça. Enfin, c'est juste.
C'est le plus dur du jeu.
Ah ouais, mais il est, c'est extraordinaire. Quand tu l'as fini, mais t'es tellement content.
C'est ça. C'est ça, c'est ça.
Mais du coup.
Mais quand tu crèves, c'est ta faute. C'est pas le jeu qui a fait de la merde. Quoi.
C'est jamais. C'est la marque des grands jeux. C'est-à-dire que quand tu crèves, tu te dis pas putain, c'est de la merde, je vais arrêter. Bonjour Dark Souls.
Oui.
Encore une. Encore une, je suis sûr que je peux le faire ce coup-ci.
Ah, pourtant, Dark Souls, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Encore une, hein.
Non, parce que
Dark Souls, à chaque fois, tu te dis, putain, mais c'est lent, mais tape, saloperie, mais tape dessus, en fait, tape pas à côté. Mais...
Dark Souls, s'il y avait une option... En fait, Dark Souls, je pense que sur émulateur, avec un x 0,25, enfin plus 25% de vitesse, ce serait peut-être jouable.
Mm-hmm, peut-être. Moi, je trouve que c'est vachement bien que ce soit lent, mais... D'ailleurs, Dark Souls 3, c'est mon vrai jeu de l'année. Hein. Quoi qu'il y a de
banni.
Mais il est pas de 2020, donc c'est bon.
Et on va finir par Final Fantasy VII Remake, du coup, ou Final Fantasy VII tout court?
Alors, Final Fantasy VII Remake, qui est sorti
en 2020. Mon Dieu, tu aimes ce remake alors que c'est de la merde, tu n'es pas un vrai fan?
Je suis pas un vrai fan, donc ça va. Je peux me permettre
c'est
de
pas l'aimer. De la merde, c'est moi, décevant, c'est pas de la merde.
Alors moi, je l'ai pas trouvé décevant. D'une part, parce que ben, forcément, on était un peu... Alors, c'est un remake qui ne fait que la première partie du jeu. Donc Midgar... forcément qui est un peu étiré au maximum, il rajoute une espèce de commentaire méta quatrième mur sur la création qui est bon, un peu raté, on va pas se mentir. Ça dessert peut-être même le jeu plus qu'autre chose, mais à côté j'ai quand même trouvé le plus beau caprice qu'ait jamais fait Square Enix en termes de jeu, et le gameplay était bien, il était vraiment très très bien. J'ai adoré suivre l'histoire même si je la connaissais. Et en fait, même si c'est pas un jeu que j'ai connu à sa sortie, FF7, je l'ai fait quand même quand j'étais en seconde, je pense, donc c'était vers 2005-2006. Et c'était assez cool de voir, de se dire, ben voilà, ce jeu des années 90 a été refait quand même en 2020 d'une très belle façon. Je suis un peu curieux de savoir s'ils vont vraiment faire la suite ou pas.
C'est ça. Alors, il a pas volé son titre de remake, mais tu vois, il l'aurait appelé Remake épisode 1.
Bah en fait, vu la fin du jeu, il y a des gens qui se posent la question si finalement la suite s'appellera pas Remake parce qu'ils vont partir sur autre chose en termes de scénario.
Ouais, ah, alors ça ce serait couillu. Ce serait couillu. Ouais.
Quand tu vois la fin du premier jeu qui dit clairement que bah non, en fait, on va partir un peu sur autre chose les enfants, hein, on va peut-être pas faire exactement la même chose. Il y en a qui se posent la question si Aris va survivre ou pas.
Ouais, non, je pense qu'ils vont faire un épisode remplissage, on fait une énorme parenthèse et puis on revient sur nos rails pour l'épisode 3. Quoi.
Je sais pas, mais je pense que même eux sont pas au courant en vrai. C'est un peu le seul truc
ça,
qui m'inquiète.
Ça, clairement. Ouais.
C'est un projet qui, de toute façon, depuis que on sait que le premier épisode va sortir, moi j'ai envie de suivre parce que je me dis quand même qu'est-ce qu'ils vont en faire? Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Parce que c'est chaud, hein.
C'est-à-dire que FF7, c'est quand même un jeu qui était gigantesque. Je veux dire, je me rappelle que le choc des gens à l'époque, c'était quand ils avaient fini Midgar, ce qui est déjà un gros
c'est 5-6 heures de jeu, mais c'est 5-6 heures de jeu qui sont vraiment intenses à une époque où 5-6 heures de jeu, c'est souvent des jeux complets.
C'est ça, et derrière, en fait, une fois que t'es sorti de Midgar, tu te rends compte que t'as tout le reste du monde à explorer, et c'est bourrin, quoi, du coup, ça te met quand même une grosse claque dans la gueule.
La fin de Midgar, au niveau scénario, elle te portait, quoi, t'avais envie d'aller te venger, quoi.
C'est là où vraiment le scénario démarre et les vrais enjeux du jeu sont mis en place. Alors, pour le coup, dans le remake, Sephiroth apparaît beaucoup plus tôt.
Et ça gâche. je trouve.
Ça gâche un peu aussi.
Ça désacralise, quoi. C'est...
Bah, fallait mettre Sephiroth parce que tout le monde voulait le voir. Hein. C'était un peu le problème.
Ouais.
Bref.
Oui. Bon. Allez, on va se marquer une deuxième pause musicale et on va passer donc au bilan de l'année, c'est-à-dire les principaux événements un petit peu intéressants qui sont passés dans l'année et vos prédictions 2021. Et je vous préviens, on fait un bilan de vos prédictions 2020 et c'est vraiment pas brillant.
Quel bâtard voilà.
Mais, ah bah oui, mais attendez.
Toi qui pouvais réussir.
Bref, on se retrouve dans 3 minutes et on va écouter Sniff City Royal Hotel, la musique de la piscine qui est excellente.
Avec David Guettaud.
Avec David Guettaud.
Putain, c'est exactement ça en plus. Bref, bon, allez, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Et c'est l'heure de vous mettre... Comment dire ? Alors, l'an dernier...
Non, on ne fait pas le bilan avant ?
Ah non, non. On va commencer par vos prédictions merdiques de l'année dernière.
Ok.
Comme ça, on fera le bilan juste après.
Direct, il nous mène les dans la merde. Sympa.
Voilà. Alors, vous avez eu tous tout faux, sauf... Sauf Mecton.
Ah ouais ?
Sur un truc.
C'est bien, on peut être analyste jeux vidéo maintenant. On va pouvoir travailler à Gameblog.
C'est exactement ça.
On va pouvoir être expert à l'heure des pros.
Non, je dis ça. Zergy aussi a eu raison. Donc Zergy, l'année dernière, nous avait dit un Panzer Dragoon sur Switch. Il est sorti. En physique. Alors, comme Limited Run a bien chié dans la colle cette année, on a failli pas l'avoir, enfin, on a failli pas l'avoir en 2020.
Ah,
mais
ils ont en bavé. Hein.
On l'a eu en 2020.
Oui, enfin, il avait été annoncé en 2019 pour, l'hiver.
Il a été annoncé à l'E3.
Voilà, non mais. Bon, le fait est, Zergy avait dit Panzer Dragoon en 2020. On a eu Panzer Dragoon en 2020.
Piu piu, piu.
Voilà, donc on n'a rien à dire là-dessus. Antix avait dit... s'était demandé qu'est-ce que les nouvelles consoles allaient nous proposer. Donc rien, hein, c'est bien...
De la chaleur.
Un SSD.
Antix nous avait également proposé Bayonetta 3. Perdu. Tu sens que c'est amer.
Qui a dit Metroid 4?
Mecton.
J'ai dit le menu paramètres.
J'ai dit le menu des paramètres de Metroid Prime 4.
Mais ils sont encore en train de chercher des mecs pour designer les boss.
Ouais.
Putain, et l'intelligence artificielle, il va pas sortir avant 10 ans, quoi.
Bref, le Switch 5, tu vois.
Moi, j'avais parié sur l'interdiction complète des lootbox. Perdu.
Dommage.
Ah
ouais,
celle-là.
Ah, c'était un peu couillu, mais c'est le principe d'une prédiction. Par contre, Mecton avait fait une prédiction assez flippante. Alors, du coup, j'ai retrouvé l'extrait. Parce que je me suis dit, ah, c'est pas possible. J'ai réécouté le truc et en fait, voilà ce qu'il avait prédit.
Bon, ben moi, je vais dériver un peu.
Je sais pas si
on en parlait en off pendant la pause. Je sais pas si vous avez vu, mais les Chinois sont en train de faire une partie de Theme Hospital géant à Wuhan et même de mettre la ville sous cloche. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air assez costaud comme grippe. Alors, du coup, pour ma prédiction 2020, je sens bien une bonne partie de l'Asie être ralentie jusque milieu d'année. Et une pénurie de Switch et des reports de tous les jeux dans le meilleur des cas.
Voilà, c'était...
Nous avons un gagnant.
C'était assez flippant. Parce que quand même, voilà,
je m'en veux.
À partir de l'actualité de base, qui arrivait à sortir ça, mais comme ça, de son chapeau, quoi.
Alors, est-ce qu'il n'est pas prédit, c'est le côté qu'en fait, c'était plus l'Europe qui allait morfler à la fin, mais...
La prédiction est quand même flippante.
Ah oui, non, mais la prédiction était bonne, hein, parce que de mémoire, en décembre, on en parlait à peine. Hein.
Bon, alors on vous a un peu niqué, on l'a
alors
enregistré.
Alors c'est normal,
hier.
En fait.
Ah, quel bâtard. Ah, le bâtard.
Putain, c'est bien marrant.
Ouais.
Salaud.
En fait, tout le monde avait tout faux à part Zergy, hein, du coup. Voilà.
Je me disais parce qu'on a carrément entendu parler qu'à partir de janvier. Hein.
Bah, en fait, on entendait déjà parler au mois de novembre, mais c'était vraiment la grosse grippe. Quoi.
Ouais.
C'est ça.
Putain, il avait vraiment maintenant.
Donc, dans les événements un petit peu marquants de cette année, moi j'en ai retenu un certain nombre qui ont émaillé l'année. Il y en a dont on a déjà parlé, il y en a dont on n'a pas encore parlé, donc du coup ça va être. intéressant d'en parler.
Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas marqué des sorties de jeux sur Switch dans les événements de l'année. Comment ça se fait?
Parce qu'il n'y en a pas eu.
Ce qui me semblait.
Bah, en fait, si, il y a eu Animal Crossing, dont on a déjà parlé abondamment, Paper Mario, Hyrule Warriors.
Oui,
c'est quand même
jeux,
à peu près tout.
Pikmin en vrai, 3
Hein?
Pikmin.
Oui, mais enfin.
Non, il est tout petit.
Il est sorti sur Wii U.
Il est tout petit alors.
Okay. Oui, bah, à ce moment-là. Le meilleur jeu, le plus vendu de la Switch, c'est un jeu Wii U. Hein.
Bah oui, personne n'a dit le contraire. Non mais voilà, il n'y a pas eu de très 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 grosses sorties extrêmement marquantes. Il y a eu quelques sorties, à part Animal Crossing.
Il y a eu Animal Crossing.
Si on nous glisse dans le chat 51 jeux indémodables.
Ouais, pas con, pas con.
Ouais, ça fait beaucoup de jeux. Hein.
En fait, Nintendo, ils ont baisé le game, ils en ont déjà sorti 51.
C'est ça, dès que tu en sortis 51 d'un coup, tu peux plus rien faire.
Voilà, c'est bon. Un par semaine. Niqué.
Bah, ceci dit, ça a été une année un peu étrange parce que il y a eu un moment en juillet où, à partir du moment où Paper Mario était sorti, on ne savait pas quelles étaient les prochaines sorties de Nintendo sur Switch.
Oui, parce qu'Hyrule Warriors, ça a été annoncé quoi, au mois de septembre, un truc comme
c'est
ça, sorti au mois de novembre.
Pikmin, ça a été annoncé sur un tweet en août ou en septembre. Un tweet, hein. Genre.
Ouais, non, mais c'est.
Peut-être avec une vidéo, tu vois, mais. Un tweet. Et ouais, Hyrule Warriors, c'est passé en douce sur un Indies. C'était un truc à éditeur tiers. Ils en ont fait beaucoup cette année d'ailleurs. En fin d'année, des spéciales éditeurs tiers. Mm-hmm. Nintendo. Ils n'en ont quasiment pas fait pour leur jeu.
Bah, c'est vrai qu'à part. C'est pour ça que c'est surprenant. Alors je sais pas si ça va s'améliorer en 2021, mais c'est vrai que le grand absent de 2020, ça a été les Nintendo Direct. Et puis finalement, les grosses annonces de jeux, les gros jeux. Alors l'E3, oui. Mais le 3 était déjà mauvais depuis quelques années. Hein. Mmh. Et tous les salons. Je crois que le premier qui a été annulé de l'année, c'était le machin à Francfort.
GDC.
Ça, la GDC qui a dû se faire en virtuel.
La GDC s'est fait en virtuel. Elle est assez tôt dans l'année en plus. Hein. Je crois qu'elle est en mars-avril, quelque
c'est
chose
ça,
comme ça.
Mars, il me semble fin mars de même.
Le 3 qui a eu lieu en juin traditionnellement a aussi été annulé. Et bon, il y a eu des trucs pour compenser. Mais Nintendo n'a pas fait Nintendo Direct, par exemple. Alors, il y a eu beaucoup de présentations. PlayStation 5, Xbox Series X. En plus, c'était étrange parce qu'on a trop annulé l'année de sortie de nouvelle console.
Exactement.
Et on a eu la Gamescom qui a été annulée, qui a lieu en août en Allemagne, à Cologne, de mémoire. Bon, elle n'a pas eu Games Week aussi, mais...
On s'en fout un petit peu.
Voilà.
Donc oui, les deux gros événements de l'année, c'est quand même la sortie de la PS5.
Et de la Xbox Series X, ouais.
Alors, Series S et Series X.
La Xbox X, c'est vrai plus.
Stop.
Ah bah, c'est obligé, hein.
Je sais pas si on a grand chose à en dire parce que c'est vrai que pour l'instant, à part les questions de pénurie et les questions de finalement, c'est pas si bien mieux que la PS5, enfin que la PS4 Pro, enfin si
ça fait
mieux,
des bons
mais
chauffages
en fait,
pour l'hiver.
Alors, moi, les retours que j'ai, et mine de rien, qui pour le coup sont pas des. L'amélioration n'est pas graphique, elle existe, hein. Mais surtout en termes de qualité d'utilisation, parce que les retours qu'on a, c'est des temps de chargement très courts, voire inexistants. La possibilité de switcher entre ces jeux sans avoir à arrêter le premier, démarrer pour la Xbox. Il y a plus une concentration sur la qualité de vie pour pouvoir profiter de son jeu rapidement et sans temps mort plutôt que sur la qualité graphique. Et vraiment, l'amélioration des technologies qui, a priori, de toute façon, est une impasse de ce côté-là.
Bah, t'as quand même du ray tracing hardware partout, mais alors avec des modes très bizarres. Alors, je crois que Demon's Souls, tu n'as pas de ray tracing. T'as un mode performance qui fonctionne en 60 FPS, mais en 1080p ou en 1440p. Puis t'as un mode.
Ouais, c'est un peu le moment où les consoles sont devenues des PC en vrai.
Ouais, c'est un peu ça. Mais alors, si, sauf que sur PC, tu peux ajuster la taille du pénis de n'importe quel PNJ. Coucou,
Cyberpunk.
Cyberbug.
Ah, on pourra en reparler lui aussi.
On pourra en reparler peut-être un petit peu. Même si bon, je considère pas que ce soit un gros événement de l'année, c'était une grosse arlésienne pendant
très
longtemps.
C'est Cyberprank.
Mais... C'est un peu ça.
Cyberprank.
Bref, sur PC tu peux régler le moindre bitonio, alors que là on te propose un mode performance et un mode qualité. Quoi.
Ouais, c'est.
En sachant que si c'est Call of Duty, Black Ops 2, Cold War, Circus Edition.
My Life as a Dark Lord.
Voilà, qui proposait trois modes. Alors, t'as un mode ray tracing, mais qui tourne que en 720p. T'as un mode performance qui tourne en 120 fps et en machin. Enfin bref, c'est le bordel. Et en gros, au final, tu te rends compte que tout le monde joue en mode qualité. Et puis, c'est à peu près tout, quoi.
Ouais, c'est vrai que pour le coup, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ces deux consoles, j'ai l'impression que pour l'instant, alors, Déjà, en plus, la Series X a deux positionnements différents, les deux Xbox avec la S qui est sur 100% des maths, mais avec moins de performance que la X qui est un peu le...
C'est le chauffe-plat, c'est ça ?
C'est le chauffe-plat, ouais, c'est le chauffe-plat. C'est la... Ça ressemble... me rappelle beaucoup leur manette pour handicapés en plus, hein, avec le gros ventilo noir sur fond blanc.
C'est vrai.
La X qui est une version un peu plus haut de gamme.
Le cendrier. Bah,
c'est ça. Et la PS5, notre cher.
Le ventilateur.
Ouais, borne Wi-Fi aussi, ça marche.
Ouais, joli.
Mais en fait, c'est des consoles qui ont l'air plus d'être pensées pour des gars amateurs d'outils technologiques que vraiment des consoles grand public en fait. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que me fait la Xbox Series. Hein, avec les deux placements différents, selon ce que tu veux. Enfin.
La scène de l'émulation qui s'excite sur la Series X. Là.
Ouais, c'est ça, parce qu'ils ont tout, ouais. Ils ont tout piraté.
Non, c'est juste le mode développeur qui permet d'installer les applis.
Ah.
Et
okay.
c'était déjà le cas sur la One.
D'accord. Ok. Donc, ouais, c'est en vraiment fait, le joujou.
Tu peux demander, alors je crois qu'il faut payer d'ailleurs. Enfin, tu payes genre $20 ou... Ah non, faut plus payer.
Non, je crois pas. Non, par contre, tu peux plus t'en servir comme console normale.
C'est ça.
Si t'as activé ça, tu peux plus jouer à des jeux normaux. Voilà. T'es obligé de le désactiver pour repasser en mode normal.
Donc en fait, tu peux activer le mode. Le mode en l'occurrence, c'est ça. Ah. C'est ta Xbox modée, tu peux l'activer ou le désactiver. Mais du coup, effectivement, quand c'est activé, tu ne peux plus jouer à des jeux commerciaux.
Ça fait chier le boulet, hein, c'est putain.
Bah, alors... En même temps, je trouve que c'est plutôt une bonne solution pour lutter contre entre guillemets le piratage parce que finalement
oui, parce
tu
que
permets
t'as
aux gens.
D'intérêt.
C'est ça. Tu permets aux gens de faire ce qu'ils veulent avec la machine qu'ils ont achetée en mode développeur et puis finalement c'est juste un switch et un reboot pour pouvoir la repasser en classique. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne solution. Hein. Honnêtement, tu payes une licence développeur et puis à la limite ça te permet de faire ce que tu veux, tester des trucs, tu peux faire tourner des jeux homebrew. Enfin, tu t'imagines si Nintendo avait autorisé le homebrew sur Wii avec un mode de ce genre-là, elle aurait probablement été piratée beaucoup plus tard.
C'est vrai, c'est vrai, ouais.
Bon, ouais, moi, je pose l'impression que pour l'instant, c'est plus des consoles pour des gens qui veulent des
beaux technophiles.
Des technophiles que vraiment un truc grand public. Déjà, le prix de 500 balles...
Pas forcément, parce que la Series, elle est pas trop chère. Donc, si t'es pas fan de Microsoft et que t'as quelques jeux qui t'intéressent, tu prends une Series S.
En plus, Series S, t'as le Game Pass.
Voilà, c'est ça.
Le Game Pass, c'est cool. Dans le principe, l'offre, c'est vraiment cool. Quoi.
Bah, t'as accès à un catalogue de jeux, et en fait, c'est une offre qui n'est pas basée sur la nouveauté, mais à part pour les jeux Microsoft. Mais vraiment
sur le
catalogue.
Sony nous a refait une PS3 là, avec la PS5. Elle est grosse, tu peux rien poser au-dessus, elle fait du bruit et chauffe.
Il faut dévisser le socle pour la mettre sur le côté.
Ouais, mais ça, c'est incroyable.
C'est vrai que c'est. Enfin. J'ai un peu du mal avec ça.
Mais c'est vrai que la taille du machin, c'est dingue.
Ah oui, bah, elle est toute seule sous la télé. Hein.
La plus grosse console jamais
créée. Si t'as la place dessous, putain, oui.
Mais d'un point de vue form factor, je trouve que finalement, la Series X, au départ, on s'est tous moqué d'elle en disant on dirait un gros frigo. Mais en fait, c'est pas si con que ça de faire un cube.
C'est vrai.
Non, c'est bien, Microsoft, ils ont dit non, mais on s'en fout, on fait juste une boîte, niquez-vous.
Ouais. C'est ça, mais en termes de ventilation, je pense qu'ils ont pas de problème. Ils arrivent à tout caser dedans sans que ça chauffe. Finalement, comme elle est plus grosse, ça fait un plus gros ventilo, donc il fait moins de bruit parce qu'il tourne moins vite. C'est pas si con que ça.
En vrai, pour le coup, en vrai, s'il n'y avait pas Final Fantasy XVI en exclus sur PS5, je serais plus tenté de prendre une Xbox hein, actuellement.
Bah, je t'avoue que oui. Ouais, pareil, là, c'est la première génération où je me dis, la Bobox me fait de l'œil.
La CRS, elle est là pour ça, elle est là pour attirer les nouveaux joueurs.
Bah, ouais. C'est ça, effectivement, mais c'est un prix plus accessible.
Le tout des maths me gêne encore un peu. Ça, c'est ma
philosophie
perso.
Game Pass,
mais... C'est vrai. Ah putain, vous faites chier.
Non, mais quand t'es joueur occasionnel, c'est-à-dire effectivement que finalement ta console principale c'est une Switch parce que t'as un peu de self-respect.
N'est-ce pas ?
Et que tu veux pouvoir par contre jouer à contrôle, enfin à 2-3 jeux sympas une fois de temps en temps ou te faire un petit kiff une fois tous les 2-3 mois, c'est pas déconnant, hein. C'est comme si t'avais un gros PC. Voilà. Maintenant, je rappelle la célèbre citation de Monsieur Frostis qui répond ça tous les mois au compte Xbox FR. Tous les mois. Quel est le jeu auquel vous avez le plus joué sur votre Xbox ce mois-ci et tous les mois, depuis 4-5 ans maintenant, Frostis répond, les mises à jour. Ce qui est pute. Mais il a raison. Bon bref, non mais je trouve que le positionnement de Microsoft... Enfin moi, ce que je trouve dommage avec la Series S, c'est qu'elle n'est pas juste un vulgaire lecteur de disques. En fait, c'est un peu con quoi, de l'avoir enlevé.
Ouais.
Parce que finalement, je pense qu'il y a la place dedans. Hein. en vrai.
La place, oui, place physique. Mais sur le tarif, je sais pas. Leur argument, c'est ça. On l'a enlevé, ça l'a fait moins cher.
Ouais,
je sais pas, un lecteur Blu-ray aujourd'hui, c'est pas ce que ça peut représenter.
Sortie d'usine, ça doit coûter 20 balles, faudra peut-être déconner, quoi. Après, je pense que le positionnement, c'est plus... on s'est fait niquer avec la Xbox One, où on avait dit que tout serait en démat, enfin que même les vrais disques seraient en démat et que ce serait le bordel et tout ça et tout ça. On n'a pas envie de refaire le même truc, mais en même temps, on a bien envie que vous fassiez 100% du démat pour que vous soyez bien coincé dans 10 ans.
Ouais. Bah, l'idée, c'est de faire du vendu Game Pass avec la série S1. Hein. C'est tu vends la console et puis ils prennent leur
tu
Game
vends
Pass.
L'abonnement derrière.
Et tu fais et les gens font tourner le jeu sur le disque dur. Hein.
De toute façon, aujourd'hui, depuis la Xbox One, de toute manière, le disque, il sert vraiment juste de clé de... Bah, t'es obligé de le mettre dans la console, mais il n'y a plus aucune donnée qui est depuis le disque.
Il y a le setup dessus.
Il y a tellement de mise à jour de toute façon.
Ouais. Oui. Le setup sur le disque, une fois que c'est installé, roule.
Moi, je trouve ça délirant, personnellement. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui me paraît naturel pour moi, une console. Effectivement, tu mets la galette dans le manche disque, t'appuies sur start et ça démarre, quoi. Le fait d'être obligé d'installer un jeu, moi, ça me fait, je sais plus une console. Et ça fait au moins deux générations que c'est plus une console. Mais c'est personnel, hein, j'ai vraiment du mal avec ça. Autre point un petit peu intéressant de l'année, le scandale chez Ubisoft, on en a déjà parlé, on y a consacré une émission, on vous y renvoie évidemment. Les harcèlements sexuels et moraux de manière générale dans l'industrie, ça a un petit peu...
On a eu avec CD Projekt, c'est pas du harcèlement, c'est du crunch.
Le crunch permanent.
Ouais, et puis leur système de prime à base de bons points.
Alors il paraît qu'ils ont laissé tomber ça au final.
Non mais du coup ils ont laissé tomber, mais le simple est-ce fait que quelqu'un ait pu avoir l'idée. ils avaient des jetons.
Des jetons.
Des jetons. Et vous plus tu as de jetons, plus ton bonus est gros.
Plus t'avais les jetons, moins t'avais de chances de partir.
Non mais voilà, on y a consacré une émission entière, on vous y renvoie, mais c'est vrai que ça a été un des gros trucs de l'année, en tout cas pour les francophones. Je sais pas si les anglophones ont
ça a pris aussi, parce que t'as eu Bloomberg et Vision Schreier qui a fait un article dessus, donc ça a aussi pris, parce qu'ils ont enquêté du côté de Montréal qui a eu les mêmes merdes, hein. Et puis Ubisoft, c'est une entreprise internationale maintenant.
C'est vrai qu'ils sont plus français que par le nom, en fait.
Les Bretons sont partout.
Bah le QG est à Montpellier, non, à Montreuil, en Ile-de-France quand même.
Oui, enfin le siège social est toujours à Rennes.
Sérieux?
Bah oui.
Ah ok.
Alors c'est Rennes ou Nantes ou je sais pas quoi, mais il est en Bretagne, hein, le siège social.
Ah bah du coup c'est pas Nantes.
Non, c'est peut-être pas Nantes.
Nantes c'est pas en Bretagne.
Je crois que c'est Rennes.
Sûrement
quel
Rennes.
Côté du cylindre.
Stop.
Nord ou sud.
Stop. Putain. Il faut créer le mouvement des cylindristes, hein, je veux dire.
Oh oui.
Je pense que Flatters n'a aucune chance d'avoir le mouvement du cylindre. C'est beaucoup plus cohérent. Parce que ça explique la ligne d'horizon.
En plus, on peut avoir des alliés avec la théorie de la Terre ronde, puisqu'on reste sur une forme qui n'est pas plate.
C'est ça. En fait, il faudrait créer la théorie de la Terre non plate. je pense qu'il y a un truc à faire. J'ai noté aussi dans mon petit résumé les réactions à la mort de George Floyd. Donc on rappelle que c'est un tragique... événement, je sais pas vraiment comment le qualifier. Si on dit que c'est un meurtre ou un assassinat, on se fait assassiner.
On peut parler de meurtre, hein, il s'est fait étouffer.
Il s'est fait étouffer, et il y a eu beaucoup de réactions dans le monde du jeu vidéo. En fait, beaucoup de gens qui ont dit, de fait, la suite du mouvement, le Black Lives Matter qui a repris, puisque c'est un mouvement qui existait déjà, mais qui a pris une ampleur un peu délirante, un mouvement anti-police aux États-Unis qui a été très très fort. Notamment Defund Police, qui était un truc où on disait bah, vous avez qu'à virer tout le monde et puis comme ça ira beaucoup mieux.
Il n'est pas anti-police, il est pour repenser la police.
Oui, il est pour repenser la police. Alors, notamment aux États-Unis où elle est financée par l'équivalent des communes. Donc où effectivement elle est très proche du citoyen, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Hein. La France est un des rares pays dans lequel la police est nationale. Vous l'apprendrez. La police allemande est comment dire, intégralement gérée par les Länder. Donc elle est complètement fédérale. En Angleterre, elle est financée par les communes, enfin l'équivalent des communes, donc c'est pareil.
En France, on commence à avoir des polices municipales qui reviennent, ceci dit.
Tout à fait. Enfin bref, donc il y a eu un grand mouvement Black Lives Matter et tout ça, et donc il y a eu tout un tas, on va dire, d'ajustements, de corrections de vocabulaire,
de communiquer,
oui, on va essayer de mettre un peu plus de diversité, oui, on a compris que ça valait pas, et voilà, il y a eu un mouvement. Je sais pas ce que ça donnera sur le long terme, parce que finalement... Il y a eu une réaction très vive et très intense d'un coup, parce qu'effectivement, je pense qu'il fallait faire quelque chose. Les gens avaient envie de bouger, avaient envie de crier d'une certaine manière que ça allait pas. Donc il y a eu plein de choses qui se sont faites à ce moment-là. Est-ce qu'il va y avoir des répercussions sur le plus long terme? Je ne sais pas. Il y a peut-être des choses qui vont changer quand même.
Parce que tu vois, au moment des communiqués, ça avait l'air sincère. Ça avait pas l'air d'être de la récupération marketing un peu triste comme on voit des fois. Genre, il se passe quelque chose, boum, ça a été un pour surfer.
Ça l'est toujours un peu. Hein. C'est comme le greenwashing ou le pinkwashing.
Peut-être.
C'est le blackwashing.
Il y a aussi un côté com. Je dis pas qu'il y a que ça, mais il y a aussi un côté comme
C'est toujours le problème un peu à double tranchant dans ce genre de choses-là. C'est-à-dire quand Ubisoft fait une com de ce type-là, tu peux te dire oui, il y a le côté on a envie de réagir parce que on pense que c'est important de montrer le soutien et tout ça, et ce que je comprends parfaitement. Mais tristement, t'as aussi obligatoirement le côté com derrière. C'est toujours à double tranchant ce genre de choses-là. Mm-hmm. C'est jamais tout blanc tout noir. Il y a toujours un C'est tout en nuances de gris. Alors tu peux féliciter les gens d'avoir réagi et d'avoir dit bah oui, c'est vraiment pas bien, on n'est pas d'accord, on va essayer de faire un effort pour montrer que nous aussi on n'est pas d'accord et qu'on a envie que ça change. Cool. Maintenant ça reste quand même malgré tout un mouvement de com. Mmh.
Ouais. Donc en gros la tristesse du truc, c'est qu'il faille un événement comme ça pour que les gens communiquent sur quelque chose qui devrait être évident.
Évident et naturel. Mais c'est con, mais effectivement il y a que comme ça que ça marche. Alors c'est ce que certains avaient appelé gouverner en fonction des faits divers, mais c'est un peu ça là, c'est réagir, finalement changer ta politique en fonction des faits divers, bah, c'est un peu triste, ça veut dire que t'es pas capable de...
D'être proactif.
Ou de te dire simplement, bah c'est pas bien, donc au lieu d'attendre qu'il y ait un événement et pour en faire la promotion de, on va dire, d'une bonne pratique, je mets ça en très gros guillemets, c'est pas tout à fait le terme qu'il faudrait utiliser, mais on va dire... Pour mettre en avant une certaine éthique, bah, tu devrais le faire tout le temps. Et en fait, juste dire quand il y a un événement comme ça, bah, regardez, nous, ça fait des années qu'on essaie de pratiquer cette éthique-là et qu'on y arrive et qu'on a des résultats. Et donc, on comprend et donc on compatit. Et à ce moment-là, tu passes un peu moins pour un connard de communicant et un peu plus pour quelqu'un qui a de l'empathie. Pas forcément plus facile à dire qu'à faire.
Il a quand même fallu attendre un événement comme ça pour que Ubisoft se dise que mettre aux fesses des meufs, c'est peut-être pas trop cool.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est... C'est le genre de truc effectivement un peu délirant. Parce qu'entre deux, Ubisoft était quand même Great Place to Work 2019. Enfin bref.
Il a disparu du site depuis.
Tout à fait. Bref. J'ai noté aussi la sortie de la TurboGrafx 16 PC Engine Mini.
J'attends la promo.
Parce que tout putain, le monde attend la promo.
Parce que putain, elle est chère.
Alors 80 balles, mais
est-ce que Laurent Super CD-ROM plus tard?
Alors je ne pense pas. Surtout qu'il y a déjà des jeux Super CD-ROM dessus. L'habillage est cool. C'est la première console mini hors Nintendo qui a l'air d'être plutôt bien finie, avec une bonne sélection de jeux.
Non, il y a Game Gear Mini.
La Mega Drive version Sega, hein, pas version AT Games, elle est très clean. Elle est très très bien foutue.
Et il y a effectivement, pareil, une bonne sélection, une grosse trentaine de jeux, si je me rappelle bien.
42.
40, ouais, c'est ça.
Pour 60 balles, c'était quand même très honnête. Et je crois que la PC Engine, alors après il y a des doublons parce qu'il y a des versions japonaises alors qui sont un peu différentes des versions occidentales, mais il me semble qu'on était à 60 jeux, je crois, pour 80 euros, donc c'est pas non plus déconnant. Hein. Dans le fond.
Mais elle a baissé alors, parce que je la voyais à 120.
Pour moi elle était 80. Hein.
D'accord.
Ah, c'est peut-être 100, remarque.
Elle est au-dessus de 100, la PC Engine.
Ah d'accord, pardon. Donc j'ai rien dit. Sachant qu'il faut quand même, me semble-t-il, acheter un multi-tap, qui est en fait un hub USB, et une deuxième manette à part, si tu veux jouer à deux. Donc c'est quand même un peu. Alors ça respecte bien l'esprit de l'époque, hein, y a pas de souci. Mais...
Elle est à 110.
D'accord, et ben on attendra qu'elle passe à 60.
Petite promo, ouais.
Voilà, et donc un des donc avec quand même énormément de shoot, avec une très très jolie présentation, avec des jolies manettes, mais alors très curieusement qui sont turbo pour la version PC Engine Mini qui sort au Japon et qui sont pas turbo pour la version TurboGrafx 16 qui sort aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis ils avaient des manettes turbo.
Voilà. Et qui sont turbo chez nous.
Mais je crois que nous on a la Core Graphics.
Ouais.
Mais qui a pas grand rapport avec ce qu'on a eu en Europe, puisqu'en fait on n'a jamais eu la PC Engine, on a eu que des imports d'une société qui s'appelait.
Ubisoft.
Oui, c'était Guillemot derrière.
C'était Guillemot derrière, mais c'est Dipole, je crois, ou.
Ouais, c'est ça.
Un truc comme ça.
Gunned en parle très bien dans ses vidéos.
Très bien. Bon, voilà, on se notera ça. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres consoles mini de ce type-là? J'aurais bien vu une N64 mini si c'était pas si compliqué à début.
Il y a l'Astro City Mini qui a été annoncé, pensant c'est au Japon. Et alors, pour le coup, c'est pas une console, c'est une borne d'arcade.
Oui, tout à fait. Une des très célèbres bornes d'arcade.
Ça, je crois que c'est celle qui faisait tourner Street Fighter 2.
Alors, c'est
ou Sega, ou les jeux Sega, je sais plus. Hein.
C'est pas tellement ça, c'est en fait l'Astro City, elle est faite par Sega, et c'est un des modèles de bornes d'arcade les plus répandus. Mais en fait, je te rappelle qu'en arcade, la borne, c'est juste l'écran.
C'est vrai.
Et le truc, et en fait, c'est la carte derrière qui le fait tourner. Mmh. Mais c'est comme l'Astro City, vraiment un modèle hyper emblématique. Ça fait...
Bah, souvent, quand c'est des bornes un peu rétro, ouais, c'est celle-là, quoi, il me semble. Hein.
Bah, en fait, quand tu veux te construire une borne, généralement, le look que tu cherches, c'est celui-ci. C'est vraiment, enfin quand je dis emblématique, c'est vraiment ça quoi. C'est une des premières bornes à être en stéréo aussi de mémoire. C'est plutôt ça.
Ce qui est vachement utile dans les salles d'arcade.
Bah pourquoi pas.
C'est plutôt une prise jack. Mais...
Bah la prise jack elle était pas par défaut en fait, fallait la rajouter sur le panel.
Bah c'est vrai qu'à l'époque de toute façon les casques étaient moins répandus. Hein.
C'est ça. Pas souvent des gens qui se trimballent avec leur casque, mais bon. Là maintenant aujourd'hui c'est le cas. Bref, j'ai noté aussi le rachat de ZeniMax Media par Microsoft, donc on rappelle ZeniMax et Bethesda derrière. Mmh. Et donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de licences, notamment les Elder Scrolls, notamment Fallout, notamment... Doom. Alors oui, Doom, je sais pas.
Dishonored.
Doom, vous êtes sûr?
Alors, ah, Doom, Bethesda. Hein.
C'est Doom, c'est Bethesda qui édite. Alors après, est-ce qu'ils éditent, mais la licence appartient toujours à id Software
Ça, je ne sais pas. Mais enfin, genre, Quake
ça va être tous les jeux des mecs qui ont fait Dishonored.
Oui, c'est ça. Mais derrière, oui, enfin, t'as quand même énormément de licences et ça reste quand même. C'était un des très gros.
Enfin, en termes de
gros éditeurs quand même.
En termes d'éditeurs de jeux solo de grande envergure, ouais, c'est Bethesda, ils sont fait une petite réputation de Skyrim quand même là-dessus. Hein.
Ah, je croyais que c'était sur Fallout 76.
Ah, ça y est, putain.
J'ai dit jeu solo, pas jeu buggy.
le cheval est mort, mais vous continuez à taper dessus.
Ouais. Je sais pas si ils veulent améliorer le truc d'ailleurs.
Ils veulent pas le laisser mourir, hein, Fallout 76.
Ah, ça. Putain,
ils le battent en vie avec des updates à la con.
Et des cosmétiques que tu peux acheter.
Mais bref. Comme Zergy nous fait plus un
Fallout 76 report.
C'est ça.
Non, mais je crois que tout le monde s'en fout maintenant.
Il y a
Cyberpunk maintenant.
Oui, il y a Cyberpunk sur lequel on peut taper. Alors Cyberpunk 2077, si vous voulez en parler, donc c'est une des grandes arlésiennes du jeu vidéo, parce que ça a été annoncé en quoi 2012, 2013
2012, comme ça. Et puis même, c'était sur un jeu qui a été pas mal reporté, qui devait sortir en avril à la base, qui a été reporté 2-3 fois, qui en plus a mis quand même bien en avant les mauvaises habitudes de crunch de son développeur, CD Projekt Red, connu pour The Witcher. Et qui quand même a fini avec une sortie alors sur PC tout à fait correcte. Bon après la qualité du jeu on en parle, je jugerai pas parce que j'y ai pas joué, mais qui apparemment est absolument catastrophique sur PS4 et Xbox One.
Oui oui, il y a du pop-up de texture, il y a des bugs partout, le jeu tourne à 10 FPS apparemment.
Le streaming d'assets, ça c'est violent quand même.
Oui, non, mais c'est... Pour les consoles qui étaient quand même été censées être les consoles cibles en 2012, hein, parce que c'est quand même là au moment où le jeu a commencé son développement.
C'est peut-être là où ils se sont mis un bâton dans la roue dès le début.
C'est ça. Donc ouais, c'est un peu... ça restera, je pense, comme un des lancements un peu catastrophiques de jeux de ces dernières années, qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps quand même. Hein, un jeu...
Depuis Skyrim à peu près.
Et encore, Skyrim, il était buggé, mais...
En fait, la différence, c'est que Skyrim était buggé drôle.
Et il a été modé de toute façon.
Et même en dehors de ça, je veux dire, Skyrim est entre guillemets buggé, mais finalement c'était pas du game breaking bug, si vous voulez.
Enfin là, on parle pas juste de bug, on parle juste d'un jeu qui tourne pas sur la console sur laquelle il sort, quoi.
Ça c'est quand même le drame. Et sachant que l'excuse de CD Projekt Red derrière, c'était de dire, vous vous rendez pas compte, c'est super compliqué de faire tourner sur du hardware last gen. Putain, il est last gen depuis un mois, mec. Arrête.
C'est un peu ça. Ils ont commencé leur développement dessus, a priori. Alors, JBC nous dit qu'ils ont probablement commencé après The Witcher 3, ce qui est très probable.
Alors, après avoir fini de débugger Witcher 3, c'est ça?
Après avoir ressuscité toute l'équipe qui était morte.
Putain, les pauvres.
D'ailleurs, c'est très étonnant parce que finalement, The Witcher 3, c'est quand même un jeu très exigeant de la génération précédente. Il est sorti sur PS4, mais c'était un des jeux effectivement très 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 exigeant. Et la version Switch tourne plutôt correctement en plus. Mmh. Effectivement, c'est de la Switch, enfin c'est un jeu très haut de gamme sur Switch, donc il est floutasse. Il y a eu pas mal d'adaptations de fait, il tourne 40 images par seconde, mais il tourne. Donc je sais pas si c'est eux qui ont fait le portage en interne ou pas, mais c'est étonnant.
C'est Saber.
Et ben voilà. Donc, peut-être qu'ils auraient dû le confier à ces mecs-là.
Peut-être. Mais ça leur aurait demandé du temps, et a priori, certainement marketing. Hein, le jeu reporté 3 fois, là on peut pas encore une fois de plus, on va louper Noël. Vas-y, go, on fera du damage control et...
Ah, c'est un jeu qui
Et tant pis pour l'équipe, quoi.
C'est quand même qui a fait un jeu qui a dû faire même 2-3 années de pré-prod, plus Witcher, c'est 2015.
Mais deux années de crunch.
Non, mais c'est ça, ils ont roté du sang, les mecs, quoi.
Seulement deux. Si seulement.
Seulement deux.
Oui, oui.
Et je vais terminer par un truc qui me fait moi hurler de rire. Amazon lance donc le futur Stadia.
Définissez quoi, Stadia futur.
C'est un peu ça, Luna donc. Alors je ne sais pas si ça va être si c'est inclus dans Prime.
Attends, Luna, si tu le mets à l'envers, ça fait quoi?
Anal.
Annule.
Merci.
Parfait. Bref, donc qui va sortir. Alors, je ne sais pas si ça va être un abonnement à part ou si ça va être inclus dans Prime. Si les mecs d'Amazon sont un peu malins, ils ont déjà des infrastructures de streaming qui marchent plutôt bien avec Twitch. Ils auraient peut-être intérêt, en réalité, à simplifier le truc le plus possible et à dire, bah voilà, avec ton abonnement Amazon Prime, tu as accès à Luna. Et si tu payes un petit supplément, bah t'as accès à des jeux plus récents. Si les mecs sont pas trop cons, c'est ce qu'ils feront. Et dans ces cas-là, effectivement, ils baiseront le game. Mais voilà, malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu comme Shadow, qui était censé être la révolution, puis finalement, la révolution, ben, on l'attend encore
ça
un petit peu.
Ça a pas pris.
Alors, c'est pas que ça a pas pris, c'est qu'au final, ils ont du retard.
Mais ça, Shadow, ça marche leur truc ?
Ils ont pas la. Si, ça marche leur truc à Shadow.
Ça marche, mais le problème, c'est que c'est la bêta permanente en fait. Là, ça fonctionne que sur invitation. Ils ont finalement un nombre de machines limité. Ah, le modèle économique n'est pas si évident que ça.
Et puis, c'est une petite boîte, c'est pas Amazon, c'est pas Google, quoi. C'est une startup française. Hein.
Exactement. Alors après, ils ont une bonne idée, ils ont une bonne techno et tout ça. Le souci, c'est que pour que ça puisse fonctionner correctement, il faut que tu mettes des data centers qui soient finalement relativement proches des joueurs, parce que aller plus vite que la vitesse de la lumière, c'est compliqué. Voilà, ça fait partie des lois un petit peu incompressibles de la physique, c'est que si le data center est à 800 km de toi, globalement, tu vas avoir 15-20 millisecondes de temps de réponse minimum, et donc ça a beaucoup moins bien marché. Donc le souci de ce genre d'infrastructure-là, c'est qu'en fait, ça demande quand même des liens télécom extrêmement costauds, c'est-à-dire très très fiables et avec des gros débits, et surtout, tu as des pics, en fait, qui sont très compliqués à absorber. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Pour l'instant, j'ai l'impression que Stadia, c'est un petit peu...
Ça démarre pas du tout. Hein. C'est pas crevé. Mais
c'est la crevée, mais ça m'étonnerait pas que Google à un moment finisse par dire, écoutez, c'est... on saigne du pognon.
Vu que ça a pas démarré, on peut pas dire que ça a floppé.
Ah, t'es un bâtard.
J'avoue. Mais après, le truc, c'est qu'il y a pas eu de suivi non plus. Enfin, le problème de Stadia, c'est que c'est quasiment une plateforme à part entière et pas.
Oui, c'est pas vulgairement comme Shadow où c'est ton PC Windows, ta machine dans le cloud et puis c'est tout.
Ce que fait Shadow à la base, hein,
c'est ça.
Tu loues une machine dans le cloud, donc c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où t'as un compte Steam, t'installes Steam sur ta machine.
Et puis tu joues accès à tous les jeux.
Donc en gros, ton jeu il sort sur Steam, tu peux jouer sur ton Shadow. Stadia, c'est genre un développement dédié. Forcément que tout le monde va pas se prendre la tête à faire pour des parts de marché plus ou moins ridicules.
À moins d'être payé par Google, ce qui a été le cas pour beaucoup. Apparemment, Ubisoft, ils ont touché du pognon pour porter une grande partie de leur jeu sur Stadia. Hein.
C'est un truc qui a été lancé par Phil Harrison, je crois que ça résume tout.
Ah,
c'est un bâtard. Mais t'as raison. Mais c'est vrai que, je sais pas ce que ça va donner. Alors Luna, on sait pas encore, j'ai regardé vite fait, visiblement, les mecs sont pas encore sûrs du modèle économique et tout ça, mais ça va se lancer.
En même temps, Amazon se lance dans le jeu vidéo, et depuis, ils ont déjà fermé un studio avant de sortir un jeu. Hein.
Ouais. C'est quand même assez compliqué. Bref, on va passer au truc drôle qui nous permettra de bien nous marrer en 2021. Ah. Vos prédictions 2021. Alors, est-ce que vous pensez aussi que Stadia va atteindre les 1 milliard d'utilisateurs ? Est-ce que vous pensez que Sony va arriver à faire une console correcte au bout de la 5e itération ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une Switch Pro ? Est-ce que vous pensez que Nintendo va recommencer à faire des jeux en 2021 ou est-ce qu'ils ont définitivement arrêté en 2020 ?
Bah non, ils vont juste te dire sur Animal Crossing et Mario Kart 8.
Allez, bâtard. Antix, je t'en prie, une petite prédiction pour 2021. Une fois qu'on sera tous vaccinés, qu'on pourra ressortir dehors et se tenir à moins d'un mètre de distance les uns des autres.
Alors déjà, je prédis que tout ce qui a remarqué Nintendo dans une vidéo aura disparu de YouTube. Je pense qu'on est déjà parti.
Bonne prédiction.
Bonne prédiction. Et que devant la pénurie, le retard des devs dans les jeux, on aura une version Switch de Xenoblade Chronicles X, le seul jeu Wii U qui n'est pas encore sorti sur Switch. Enfin, le jeu qui vaille le coup.
Non, parce que tu oublies toujours Mighty No. 9.
Oui, Star Fox Zero.
Oh putain.
La pauvre
Il y a les deux Zelda HD.
Et si, j'ai une dernière prédiction. C'est un personnage de Smash Bros. Et on aura très probablement le Master Chef, Philippe Estevèche, en personnage jouable.
J'achète.
Et celle-là, j'achète. C'est mon meilleur pari, vous pouvez parier dessus. 1 contre 100, vous gagnez.
Très bien. Becton, on va essayer de ne pas bullshiter tes prédictions pour l'année prochaine.
Ah bon?
Ah bon?
N'empêche qu'on vous a bien possédé. Moi, je pensais que vous alliez tout de suite griller le truc, et en fait, pas du tout.
Non.
Donc, c'est, du coup, c'était presque pas bien comme blague, parce que ça aurait été plus drôle où vous le repériez. Bref. Donc, alors, monsieur Mecton, une prédiction. Alors, Covid-21, oui.
Alors, oui. Pour enchaîner sur Antix, retour du Miiverse pour remplacer YouTube.
Ah, les bâtards.
Je tape sur un Game & Watch Zelda. Une petite Zelda Collection façon Mario Anniversaire. Là.
Donc, Zelda feignant.
Voilà. Ouais.
Alors Zelda The 3D Collection, ça va être compliqué quand
c'est
même.
Vrai que c'est les 35 ans de
ils vont
de
mettre le CD bonus GameCube Zelda sur une cartouche Switch et puis ils vont dire c'est bon.
Allez bâtard.
Remarque bah,
en non, vrai ce serait pas si idiot que ça.
Zelda 3D Collection, ils ont déjà deux versions HD.
Bah, en vrai,
ils font le portage Skyward Sword et c'est réglé. Hein.
En vrai, ce qu'ils pourraient faire, c'est reprendre les versions 3DS, booster un peu la résolution et t'aurais Ocarina of Time Majora's Mask parce qu'ils ont déjà été refaits. Tu mets ça sur une première compile. Ensuite, tu mets Twilight Princess et Skyward Sword et tu dis c'est la Wii Collection. Comme ça, tu élimines la GameCube. Tu fais du révisionnisme vidéoludique.
Oh, ce serait pas le genre de Nintendo, ça, révisionnisme.
Jamais. Jamais. Je rappelle que Mario, à l'origine, avait une salopette rouge.
Oula, du calme.
Stop. Donc voilà, non mais... pour les, c'est vrai que les 35 ans de Zelda, comme ils ont fait les 35 ans de Mario, tout le monde s'attend à ce qu'ils fassent quelque chose pour les 35 ans de Zelda. Après, j'ai l'impression qu'effectivement... le.
Ce sera peut-être Breath of the Wild 2. Hein.
La pandémie a quand même foutu une belle merde.
Parce que le Breath of the Wild 2, je le sens bien, tu vois, comme Metroid Prime 4, switcher... Alors, pas... Ouh, putain, joli. Basculer. Basculer pas sur
commutaté.
Une... Merci. Commutaté pas sur une Switch Pro, mais sur un accessoire à la con, façon Mega RAM Pack, comme faisait Sega à l'époque, tu vois. Une connerie
comme
que tu viendrais brancher...
Nintendo à l'époque.
Oui, aussi, ouais. Mais une connerie que tu viendrais brancher sur le port USB sur le côté, là, pour bourrer un peu, rajouter un peu de RAM et...
Ah, le fameux accessoire qui booste la Switch dont Nintendo avait posé un brevet il y a quelques années.
La puce secrète. Oui, le Dock Pro. Bah voilà. Un truc à la con comme ça...
Franchement, je pense pas.
L'histoire me donnera raison et au pire, je réenregistre l'année prochaine.
La Switch Series S.
Ça, ou une Game Boy Mini.
Je verrais bien. Alors, Game Boy Mini... c'est pas impossible.
Game Boy Advance Mini à la limite.
Game Boy Advance Mini, c'est jouable.
Et une Game Boy Pico encore plus petite que la Game Boy Micro.
Que la Game Gear Micro.
Que la Game Gear, putain.
Oh là là, mais quel horreur.
On en a pas parlé, mais... T'as 4 versions différentes avec des jeux différents.
Avec son microscope.
Et t'as une loupe fournie si t'as les 4.
Putain.
Voilà, la Game Gear Micro, merci Sega.
Bref, moi je ne sais pas, la Switch Pro, j'y crois moyen. Moi, ce que je me dis, c'est que il y a déjà la communauté Homebrew qui a fait pas mal de trucs en overclockant la Switch, ou en la poussant au maximum de la capacité, parce qu'en fait, le Tegra X1 qui est dans la Switch ne tourne pas au maximum de sa fréquence.
C'est pour pas qu'il crame, c'est ça?
Mais c'est surtout pour qu'il bouffe moins de batterie, parce qu'en fait, apparemment, il n'y a vraiment pas de problème de surchauffe quand on le fait tourner à pleine capacité. Il est fait pour ça.
Ok.
Le problème, c'est que... overclock la Switch, et ça devient une plancha.
Oui, ça pourrait être ça.
Ah, j'avoue, bon plan.
Dans deux ans, non. Mais visiblement, le vrai problème, c'est la batterie. C'est-à-dire qu'en fait, la batterie est donnée pour... on va dire, un Zelda Breath of the Wild te donne 3 heures de batterie en normal. Si tu l'overclock, en fait, elle fait plus que 2h05, un truc comme ça. Donc c'est quand même assez violent. Mais je me dis que finalement, les premières générations de Switch, aujourd'hui, elles sont peut-être minoritaires par rapport aux secondes générations. Je rappelle qu'il y avait un Tegra X1 qui était beaucoup plus petit et qui permettait à la batterie de tenir beaucoup plus longtemps, quasiment le double. Donc je me dis que le fait qu'ils laissent les développeurs... ils débrident un peu le truc et qu'ils laissent les développeurs pousser la console jusque au max de ses capacités, je serais pas surpris. Switch Pro, j'y crois un peu moins, même si, après tout, une troisième révision qui mettrait un Tegra X1, mais bien boosté...
Ça sera la New Switch, monsieur.
La New Switch Pro. Ah non, attendez. La New Switch Pro Series X. Ah non, attendez. La New Switch Pro Series X.
Ouais, arrête-toi. 64, tu te fais du mal, là.
Non, je rigole beaucoup. Ça me fait beaucoup rire. J'attends la PS5 Pro. Putain, j'ai un collègue qui me dit j'achète pas de PS5 parce que j'attends la PS5 Pro. C'est putain, mec.
Ça sent le mec qui s'est fait couiller à la génération précédente.
C'est un peu ça.
Genre comme Mortal qui revend sa 3DS.
Non, j'ai acheté une 3DS XL juste avant la sortie de la New 3DS. Voilà, j'étais très pro. D'ailleurs, je vais probablement. J'attends le prix se casse la gueule parce que maintenant que la 3DS est officiellement morte. Ah oui, il y avait ça cette année aussi. J'attends que la 2DS XL passe en dessous de, allez, on va dire 80 euros, que ce soit vraiment le clearance du mois de janvier. Et je pense que j'achèterai une 2DS XL. Et que je la modderai pour mettre un port USB-C au lieu d'avoir leur port propriétaire à la con. Parce que merde. Bref, monsieur Zergy, une petite prédiction pour l'année prochaine.
La suite de Sonic le film, comme ça on pourra faire gagner des places pour le prochain Dojo Quiz.
C'est possible.
Oh merde.
Le gros bâtard. Challenge accepted, donc c'est officiel, hein, le prochain Dojo Quiz, nous faisons gagner des places, 4 places, au Grand Rex, en 3D, donc les places qui coûtent cher, pour Sonic le film 2. Voilà, l'engagement est pris.
Allez, il y a une rumeur qui court depuis l'an dernier, l'an prochain c'est aussi les 35 ans de Metroid, du coup un petit remake de Metroid Prime Trilogy, ça serait cool.
Tel qu'on aura Metroid Prime 4.
LOL. L'année dernière, avait dit le menu des paramètres. Hein,
ouais, alors pas. Je dis un Metroid Prime 4 prologue.
Alors, ceci dit, l'année prochaine, c'est aussi les 30 ans de F-Zero.
Metroid Prime 4 Grand Zero, voilà. Et on l'a fait.
C'est pas les 30 ans de F-Zero aussi l'année prochaine?
Ah, il remue ce bouton.
Ah, il est sorti en même temps que la Super NES, hein, donc c'était cette année.
Ah, un acte manqué.
Oh merde, les gars, non. C'est moche ce que vous faites.
Même Fire Emblem a eu un truc pour ses 30 ans. Bon, c'était nul, mais.
C'était un peu, oui, c'est un peu.
C'était quoi?
La version traduite du premier Fire Emblem sur NES.
Ah putain, oui, je l'ai chopé, c'est chaud, hein. Waouh, wow,
il y a un collector hein, quand même. Hein.
Mais surtout, ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient choisi spécifiquement cet épisode qui a déjà été remake sur DS. Mais bon,
c'est vrai.
Et traduit en français.
Bah, c'est Shadow Dragon, non? C'est pas ça?
Ouais, c'est celui-là.
Et puis en plus, la version DS marchait mieux que la version Famicom, me semble-t-il, parce qu'effectivement, elle est moins bordélique.
Puis surtout, la version DS, elle apporte pas grand-chose par rapport à la version Famicom, donc...
En termes de scénar, oui, je suis d'accord.
En termes de scénar, oui. Bon, après, en termes d'expérience de jeu, elle est un peu mieux.
Il faut que je vérifie s'ils ont extrait la ROM.
On nous propose dans le chat émulateur. La New Switch Pro Series X avec Dante de la série Devil May Cry and Knuckles. Je suis obligé de dire oui. Bref, donc oui, je vais peut-être me hasarder à une petite prédiction un petit peu fofolle. Je verrais bien le retour d'un Kid Icarus. Mmh. En soi, remake de Uprising.
Attends, il y a eu plus de 20 ans entre les deux, là. Donc le prochain, c'est en 2050. Hein.
Alors Sakurai, il n'est pas dispo pour le faire. Hein.
Mais c'est pas Sakurai qui le ferait.
Non, c'est Ubi, ils ont fait Immortals, ils peuvent faire Kid Icarus. Alors,
je suis désolé, c'est pas du tout ça. Moi, je pense que c'est From Software qui va faire le prochain Kid Icarus.
Oh putain, nique-toi.
La version dark.
La version très dark. Dans lequel, dans l'intro, Kid Icarus a un casque et il l'enlève. Et il a son fusil et il abat une aubergine.
C'est Call of Duty.
Avec son fusil. Et derrière, il se retrouve devant une méduse géante. Moi, je suis sûr que Kid Icarus Souls, tu peux le faire.
Souls Icarus.
Putain, ce serait tellement pas du tout ça, en fait. Bref. Bon, allez, on va se quitter là pour 2020, du coup. Puisque c'était la dernière émission de l'année. Oh.
Quelle année de merde.
Stop.
Ouais, en attendant celle de l'année prochaine.
Oh oui.
Je sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, je vous propose.
Il y aura
donc...
des drones dans le ciel.
Oh, stop. Stop.
J'espère que vous aimez le tir à l'arc.
Non, j'aime beaucoup le tir au fusil, étonnamment.
Et sinon, tu te lances, t'élèves des rapaces pour qu'ils attrapent les drones.
Ah oui, anti-drone, ouais.
Ah, j'avoue.
Il y a peut-être un truc à faire, en vrai.
Des trucs à faire, ouais.
Mais il y a forcément des trucs à faire. Rappelez-vous toujours, le low-tech bat toujours le high-tech. Faites des trucs simples, ça marche très bien.
Ouais.
Bref.
Prendre avec un caillou, hein.
Oui, tout à fait. Donc on va se retrouver, nous, normalement, si tout va bien, l'année prochaine, probablement aux alentours du mois de février, je ne sais pas exactement quand, on verra en fonction de l'actualité, je pense. Alors j'ai très peur que l'actualité du début de l'année prochaine soit extrêmement calme, ce serait pas très très étonnant. Mais en tout cas, on se retrouvera à ce moment-là. Et pour une 17e saison,
nice.
Extraordinaire.
Incroyable.
On sera bientôt majeur. Mm-hmm. On aura le droit de boire de la bière.
Ah cool, cool.
Ça fera plaisir, Galactus.
Voilà. Je vais essayer de perpétuer cette petite tradition, ce petit truc que j'ai essayé de lancer une semaine ou deux, de dire on va faire des streams du goûter. Je trouve que l'horaire est assez peu squatté, notamment par les streamers français. Je pense que c'est quand même une bonne idée. Puis ça, moi, ça me permet d'aller me faire un peu plaisir en faisant un jeu en direct et en faisant un peu n'importe quoi, en faisant un peu le gogol pendant une heure. Ça me fait une petite pause à 4 heures. Voilà, donc restez branchés. Je pense qu'on continuera pendant les vacances de fin d'année. Et probablement au mois de janvier, au moins les mardis et jeudis, je dirais. Ce sera peut-être un peu plus compliqué pour les autres journées, mais... Je ne dis pas que je ne tenterai pas de le faire, peut-être tous les jours à un moment. En tout cas en semaine. Bref, donc en tout cas, on vous fait des très gros bisous. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On vous souhaite de bien jouer, de jouer intelligent, d'avoir des jolis cadeaux. On vous souhaite que l'année 2021 soit un peu moins merdique que l'année 2020. Je pense que ça va être compliqué de faire pire quand même.
Mais de jamais sous-estimer
le pouvoir...
De l'emmerdement maximum.
Voilà. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne année 2021. On vous fait vraiment des très 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 gros bisous.
Passez de bonnes fêtes.
Ciao. Et passez de bonnes fêtes.
Et gaffe à vous.
Voilà. Faites attention, soyez prudents.
Bye bye.
Ne faites pas d'imprudence. Oui. Ne remplissez pas les hôpitaux au mois de janvier.
Ne faites pas d'enfants.
Voilà, ne faites pas d'enfants non plus. Et des gros 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 bisous.
Yes, bonne fête.
Bisous bisous.